Salut tout le monde, c'est Enzo, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. C'est parti pour parler de tennis pendant une heure et des poussières, et c'est bien sûr pleine balle. Au programme ce soir, j'espère que vous aimez Madrid, car on va revenir en long, en large et en travers sur le Masters 1000 qui s'est conclu dimanche dans la capitale espagnole. On a beaucoup de choses à dire avec la victoire surprise de Marta Kostiuk dans le tableau féminin, la belle demi-finale d'un jeune belge qui pousse, et une énième démonstration de Yannick Sinner qui va nous amener à une question. Qui peut l'empêcher de gagner Roland Garros? Une certitude, bah, ce ne sera pas Carlos Alcaraz. L'Espagnol a déclaré forfait pour la fin de saison sur Terre et on va aussi en parler. On va aussi en profiter pour faire un petit état de forme de chacun, chacune à une dizaine de jours du début du meilleur tournoi de l'année. Plus près de chez nous, dans la page Normandie, on reprendra des nouvelles de Daniel Jade qui est décidément très en forme, mais aussi d'une belle compétition qui fait son retour dans la région cet été. Sans oublier quelques brèves de comptoir, nos pronos toujours aussi avisés et un quiz bien ciselé en fin d'émission. Un joli gâteau d'anniversaire pour le 50e numéro de pleine balle, c'est parti!
Silence, s'il vous plaît.
On a une période où on joue moins bien parce qu'on réalise.
Et là, j'étais vraiment mais sur un nuage pendant trois jours.
Et pour m'accompagner ce soir, une équipe presque au complet, car il en manque un autour de la table. Mais bon, parfois il faut savoir composer avec les aléas de la vie. Hein. Et clairement pour Richard, bon, un petit break s'imposait. Il a courageusement affronté les annonces de retraite de mon fils, de Wawrinka, de Goffin, même Roberto Bautista Agut il a tenu. Mais bon, là Nishikori c'était trop. Là c'était trop pour lui. Bon. On ne l'en veut pas, on salue évidemment notre Richard, qu'on retrouvera revigoré dans 15 jours, évidemment, il se sera tout ressourcé, il sera en pleine forme évidemment. Lui par contre, il est bel et bien de retour. Après deux émissions d'absence, il a retrouvé le chemin du studio, avec ses analyses toujours aussi affûtées que son rythme de course à l'Urban Trail de Villedieu-les-Poils. C'est Simon, comment ça va mon Simon?
Très bien Enzo, et vous? Et c'est la 50e.
Mais c'est la 50e.
C'est la 50e, mais joyeux anniversaire à nous.
Mais bien sûr, joyeux anniversaire à nous.
Les auditeurs. Allez, on chante.
Allez, non, ça va aller. Non, il fait encore beau, enfin on espère. Donc bon, on va pas non plus attirer.
Il y a un chrono qui tourne.
Ouais, quand même, faut pas abuser. Donc ça va la forme?
Très très bien, très heureux d'être avec vous.
Mais nous aussi, on est toujours heureux de t'avoir, notre cher Simon adoré.
Il y a que du love ici.
Bah, bien sûr, que de l'amour, c'est que de l'amour de toute façon. Et le trio du soir, il est complété par une athlète non moins impressionnante, hein, une staccanoviste des cours de tennis et des bancs de la fac. Car elle vient de vaincre l'adversaire le plus redouté des 18-25 ans en études sup, j'ai nommé les partiels. C'est Marine.
Oui, coucou.
Comment ça s'est passé?
Bien, en vrai bien. Ça va. Il m'en reste encore un.
Ah!
Ouais,
c'est pas
mais
encore fini.
J'ai passé le gros,
d'accord.
Le gros bloc.
C'est la dernière ligne droite, quoi.
Ouais, donc là je suis heureuse mais fatiguée, donc pas trop falloir m'en vouloir pour ce soir.
Mais oh, tu te justifies là. Tu n'as pas trop suivi l'actu tennis, c'est pas bien. C'est pas bien.
Non, il y a toujours une petite place pour le tennis quand
évidemment,
même.
Évidemment, quand même. Non, mais en vrai, voilà, tu as passé les partiels, c'est ce qu'il faut retenir. Et
ouais,
tu es sorti en vite cette épreuve.
Je suis bientôt en vacances.
C'est ce qu'il faut retenir. Évidemment, l'approche des vacances, ça aussi c'est une bonne période.
À l'approche de Roland en plus.
Oh, vacances plus Roland, le duo
oh
il est absolument extraordinaire.
Rêve.
Parfait. Que demande le plus, que demande le peuple, franchement rien d'autre. C'est absolument parfait. On dit bonjour à Emile aussi, bonjour Emile.
Coucou.
Bonjour, le plus beau technicien de la galaxie bonjour, entière, Emile. De la Voie lactée, de tout ce que vous voulez, bref. C'est Emile quoi, c'est le plus beau. Il n'y a rien d'autre à dire, c'est Emile.
Mais on connaît pas sa voix.
Ouais, à quand Emile dans l'émission?
Bah écoute Emile, c'est quand tu veux. Hein. C'est une question d'anniversaire. Tu sais que tu n'as qu'un bouton sur lequel appuyer pour qu'on t'entende.
Ouais,
c'est quand tu veux.
Après c'est comme le visage de Dark Vador, genre.
Ouais, c'est
il
vrai.
Faut le garder
vrai.
Secret.
C'est,
et ça
c'est les Daft Punk.
C'est
Daft Punk. De toute façon, c'est un mec de Daft Punk, c'est un des deux.
Alors, c'est ça.
C'est
en
Daft
fait.
Ou Punk, vous choisissez. C'est un des deux.
C'est le point virgule après Daft Punk.
C'est point virgule. Écoute Emile, tu le prends comme tu veux. Bon bref, ne perdons pas plus de temps. Le temps justement, on le compte hein, avant le début de Roland-Garros. C'est dans 10 jours pour vous. C'est dans 11 jours là au moment où on se parle. Parce qu'on enregistre un petit peu en avance l'émission. Un jour férié oblige quand même. On prend,
oui.
On prend nos...
Oui,
donc,
on
voilà.
Prend de l'avance.
On prend de l'avance, il voilà, faut le dire. Le Grand Chelem parisien se prépare donc avec le début des qualifs le 18 mai et le début des tableaux principaux le dimanche suivant, le 24. À noter pour cette année une augmentation globale du prize money de 9,5%.
Bien,
ça atteint la coquette somme de 61 723 000 euros.
Ça se défend.
Ça se défend, c'est
ça
correct.
Va, oui, c'est sympa.
C'est pas mal. 2,8 millions d'euros, c'est le pactole que touchera chaque vainqueur, côté féminin et masculin. Mais côté masculin, bah, ce sera pas Carlos Alcaraz. Et non, pas de triplé pour l'Espagnol, touché au poignet. Il a déclaré forfait quelques heures après notre dernière émission, rappelez-vous. Alcaraz fait donc l'impasse sur la fin de saison sur terre battue. Une partie au moins aussi de la tournée sur gazon qui semble quand même bien compromise. C'est une sacrée tuile quand même là pour le numéro 2 mondial.
Ouais. Ah bah ça c'est sûr.
Ça pue hein, quand même, c'est une grosse blessure.
Est-ce qu'il sera là pour Wimbledon?
Bah en vrai la question se pose hein.
C'est
se
lui qui a gagné l'année dernière. Non,
c'est Sinner qui a gagné,
l'année dernière. Mais il a une finale à défendre, oui, dans tous les cas, oui.
Oui, bah, de toute façon, les finales de Grand Chelem l'année dernière, c'était pas compliqué. Oui, c'était pas Sinner Alcaraz.
Je sais même pas pourquoi je cherche. Mais on sait ce qu'il a ou pas au poignet?
Alors, il y a une part de la fameuse tendinite du sourcil, rappelle-toi de ce que Richard avait sorti. On te salue Richard, évidemment. Non, une espèce de tendinite. Alors, c'est un tendon apparemment du poignet qui est touché, mais alors ça nécessite peut-être une opération.
Ah oui.
Mais bah, à voir, est-ce qu'ils jugent ça nécessaire? Mais c'est vrai que c'est quand même.
En tout cas, c'est fou qu'ils disent non à Roland Garros.
Ouais,
c'est que ça doit
ça,
quand même
ouais.
être assez
ouais.
important.
Et de façon aussi rapide, parce qu'il l'a quand même annoncé avant même, quasiment au début du tournoi de Madrid, quoi. Mm-hmm. Donc, quand même bien 15 jours, 3 semaines avant. Donc, c'est vrai que c'était quand même assez anticipé.
À voir comment il revient, même si je me fais pas trop de soucis pour lui. Il a une grosse marge par rapport à tout le monde,
oui,
sauf
bah même
peut-être Sinner, mais à
ça.
Voir. Mm. En tout cas, le boulevard pour Sinner.
Ah bah là,
clairement,
ouais, clairement.
On va en parler dans quelques minutes, mais là, c'est vrai que le boulevard, il est tracé, quoi. C'est Champs-Élysées, c'est magnifique, quoi.
Bah, à voir si lui, il tient, du coup, physiquement, tout seul.
Tout à fait.
À voir. Parce qu'à Madrid, il y a eu quelques petits signes de fatigue, notamment au poignet.
Tu as remarqué ça.
Il tournait son poignet de manière à dire aïe.
Il a dit aïe.
En italien, on était plus sur du aïe.
Ok.
Ouais. J'ai pas un bon accent, désolé.
Si, c'est pas mal, c'est pas mal.
C'est bon, ça va.
Ouais,
c'est validé.
On a bien compris que c'était d'italien. Ouais.
Tous les profs, LV1,
je pense que tous les. Ouais.
En sueur.
Ouais, c'est bon.
C'est comme ça qu'on dit, je pense.
Ouais, non, je pense. Ouais. Mais bon, ça l'a pas empêché, évidemment, de gagner. Mais
ça l'a pas empêché de faire Rome juste après, là.
C'est ça, il enchaîne à Rome.
À voir ce qu'il fait à Rome.
Bah, moi, ouais. Bah, on va en reparler dans quelques secondes de Sinner, mais c'est vrai que il enchaîne pour l'instant, le petit Yannick. Mais en tout cas, ça, ce qui est sûr, c'est qu'à Rome, il n'y aura pas Carlos Alcaraz, encore moins Roland Garros, et on verra pour la tournée sur gazon, mais même la tournée sur gazon s'annonce peut-être quand même un peu compliqué.
On peut déjà faire un prono
pour l'Espagnol. Vas-y.
Moi, je pense qu'il rentre juste pour Wimbledon.
Ok, il revient que
Wimbledon.
Pour Wimbledon.
Ouais.
D'accord. Ok. Eh ben, écoute, on prend les paris, on fait les comptes dans quelques semaines. That's good stuff. All out of 10 from Federer. Bon, Alcaraz ou pas, la tournée sur terre battue, elle a poursuivi son chemin à Madrid. Le tournoi est commencé tout juste lors de la dernière émission. Il s'est clôturé dimanche, ça vous dit la longueur hein, des tournois sur 2 jours. Bref, un tableau masculin que, perso, j'avais super bien pronostiqué. J'avais dit Shelton vainqueur. Il a perdu au premier tour contre Prismic.
Mais qu'est-ce qui t'a pris? T'as pété un câble.
Ouais, bah, il faut un moment de faiblesse, faut croire. Je sais pas ce qui s'est passé.
Non, mais c'est bien, t'y as cru, c'est
bah,
beau.
Écoute, j'y crois.
C'est beau, c'est beau.
Bah, j'y crois. Bah, écoute, t'as pronostiqué Swiatek, hein, donc. Ah non, c'était moi en plus aussi. J'ai fait Shelton et Swiatek. Ça, c'était un doublé.
Oui, mais elle était malade.
Oui, c'est vrai. Elle était malade. Bon, il y a un mauvais virus à Madrid. Bon, bref. Nos pronos, bon, ils étaient évidemment foirés. Et ça souligne aussi à quel point, dans nos pronos, on cherche toujours des scénarios qui ne mettent pas Sinner vainqueur. On cherche toujours à innover.
La petite bête.
Ouais, c'est ça. Alors que bah, parfois, il faut juste se rendre à l'évidence. Hein. Écoutez, Marine, d'ailleurs, tu l'as très bien fait. Puisque tu avais annoncé que le natif de San Candido remporterait le tournoi. Et c'est ce qui s'est passé. Il a gagné. Il a déjoué les pièges Rodar et Fils dans son côté de tableau. Avant de retrouver en finale la tête de série 2 du tournoi, un dénommé Alexandre Z, 29 ans. Né le 20 avril 97 à Hambourg. J'en parle comme si c'était un homme lambda, parce que c'est ce qu'il a été dans cette finale.
Oh,
un homme lambda.
Ça dit les termes.
Bah non, mais faut le dire, hein, ça a été le faire-valoir de Yannick Sinner, qui en a fait littéralement de la charpie. 6-1-6-2 en 58 minutes. On est dans le top 3 des finales les plus courtes de l'histoire des Masters 1000.
Hein. Ah oui?
Oui, ouais. On est dans le top 3. Première ou deuxième, les sources sont diverses, mais en tout cas, on est sur le podium, quoi.
Donc même pas une heure, quoi.
Même pas une heure. 58 minutes. 9e victoire consécutive pour l'Italien face à Zverev, qui, on le rappelle, est numéro 3 mondial, quand même.
Quand même.
Ouais. Bah, c'était, je sais pas si vous avez regardé cette finale, si vous avez eu le temps de la regarder, parce que 58 minutes, fallait pas être en retard, quoi.
Ouais.
C'était moche, hein, c'était un massacre.
C'était très triste parce que en voyant le tournoi de Zverev,
de Zverev, bah c'est lui, hein,
je n'ai plus de respect pour lui. De Zverev, je m'étais dit, il y a moyen. En vrai, il y a moyen parce que bah il avait l'air d'être ultra. Enfin, Zverev, on sait qu'il a un côté ultra passif qui lui fait perdre tous ses matchs. Et là, il avait une attitude beaucoup plus conquérante et beaucoup plus dans l'attaque, etc., dans l'offensive. Je me suis dit, il y a moyen de fou, il fait quelque
chose.
Alors peut-être. Et j'y croyais, je me suis dit, Zverev qui gagne. Franchement, je m'étais convaincue. j'ai vu les trois premiers jeux, j'ai fait wow, qu'est-ce que j'ai fait.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Qu'est-ce que j'ai fait? 5-0 Sinner.
Ouais, c'était compliqué, ouais. Pour vous donner une idée, quand même, il y avait 5-0 après 17 minutes de jeu.
Ouais, c'est ça. Et, wow. Et globalement, on n'est pas sur non plus Zverev qui faisait que des fautes, quoi. C'était vraiment Zverev, il renvoyait la baballe et Sinner, il faisait ce qu'il voulait.
Ouais, il se faisait Sinner, exploser.
C'était aberrant.
Mais en plus, quand tu regardes tout le tournoi de Madrid, j'étais un peu comme toi. C'est-à-dire qu'on a vu un Sinner qui, quelquefois, était un petit peu accroché, qui s'est fait un peu accrocher par certains joueurs, qui avait du mal à bien contrôler la balle. Donc on s'est dit, tiens, Sinner en moins bonne forme. Zverev qui arrive, qui est lancé, qui a battu en plus Blok, ce joueur qui n'était pas un joueur non plus hyper facile à battre. Donc tu te dis, eh, c'est peut-être le moment, un Sinner sur Madrid qui n'est pas forcément hyper à l'aise, un Zverev un petit peu en confiance, pourquoi pas. Et en fait, démonstration. Mais en fait, ce qui est terrible, c'est que Sinner, il est fort, ok, il est hyper régulier, il attaque, il met tout, ok. Mais l'attitude de Zverev, c'est tellement déplorable. En fait, t'arrives et le gars, tu rentres sur le court, il a perdu, c'est sûr.
Ouais,
il a perdu.
Ouais,
tu vois compliqué. Les premiers jeux et je sais pas, il s'énerve pas, faut pas lancer sa raquette, c'est pas bien, mais tu perds 5-0 au bout de 50 minutes, tu peux t'énerver contre quelqu'un. Fils, il l'a déjà fait, tu sais, prendre des branlées à Doha contre Sinner, je crois, un truc comme ça.
Oui,
il s'est énervé. Il y avait un truc, quoi. Là, il y avait rien, quoi. Tu te dis, bon, je vais prendre ma branlée, j'espère que ça va pas être trop long, qu'on passe à autre chose.
C'est vraiment ça.
Donc,
c'est
terrible.
Fou.
Après, il l'a dit,
fou.
Oui, j'ai fait un mauvais match, un très mauvais match, j'aurais perdu contre tout le monde. Mais le truc, c'est que, en fait, même, il avait perdu, je crois, 8 fois d'affilée avant.
Ouais, c'est ça, c'est la 9e victoire de Sinner.
Donc, il rejoue contre Sinner, tu te dis, peut-être il va changer un truc dans son jeu, il va peut-être faire que monter à la volée, il a fait attaquer à fond, il va tenter plein de retours, quitte à prendre une branlée, moins tenter un truc, et si ça se trouve, ça marche sur un coup de chance, ça peut le faire, quoi. Rien. Mais il s'est laissé défoncer.
C'est vraiment laissé faire.
C'était horrible.
Ça, ouais.
En fait, ça devient gênant. Ça devient vraiment.
Ouais,
gênant.
C'est vrai que la finale, était quand même assez surréaliste, quoi. Même au moment où Sinner gagne, je sais pas si vous avez fait attention forcément, mais il y a aucune effusion de joie dans le public. Il se passe rien.
Mais tout le monde y attendait.
C'est assez étonnant comme moment. Tu l'as dit, Simon. Il y a d'autres joueurs qui ont un peu enquiquiné Sinner. Vous voulez une stat rigolote? Bonzi a marqué 6 fois plus de jeux que Zverev.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui. Il lui a pris un 7 quand même.
Il lui a pris un 7 et marqué 6 fois plus de jeux dans son match. C'est-à-dire, c'est Benjamin Bonzi non plus, il sort des qualifs, quoi.
Et Zverev, c'est justement des joueurs qui ont rien à perdre. Et du coup, ils y vont à fond contre des joueurs comme Sinner ou des têtes de série. Alors qu'un Zverev qui sait qu'il va se faire défoncer, au lieu d'essayer de changer son jeu, comme disait Simon, il accepte son sort.
C'est même pas qu'il triste. A. Oui, mais Zverev, il avait même pas des points à défendre.
Ah oui, non, même pas.
T'sais, en vrai, il a rien à perdre lui aussi. Et quitte. En fait, il prend tellement des branlées à chaque fois, enfin des 6-3, 6-4. Limite, il a rien à perdre en reprenant une deuxième en tentant quelque chose.
Ouais, non, c'est
et limite, on aurait dit, bon, il a tenté ça, effectivement, dommage, ça a pas marché, peut-être une prochaine fois, quoi. Mais là, juste être passif et se faire allumer, c'est quand même triste. Puis même, ça doit pas être très agréable pour lui, quoi.
C'est sûr qu'il y a des moments plus agréables à vivre, je pense.
Ouais.
Après, rendons aussi à Sinner ce qui lui appartient. Il a encore été à un niveau absolument.
Oui, c'est vrai.
Il est moment, quoi, carrément, pour qualifier son match encore. Sa finale, il a été clinique, il a été d'une perfection, limite, c'est incroyable. Il n'a fait aucune erreur dans ce tournoi, de manière générale. Et donc là, on est à deux semaines quasiment du début de Roland Garros. Un petit peu quand même, un peu de patience. Je suis impatient.
T'as raison.
Deux semaines donc du début, globalement, pour le grand tableau de Roland Garros. Et on a quand même une question, on l'a dit tout à l'heure en parlant de boulevard, qui peut empêcher Sinner d'être sacré à Roland?
Alexander Zverev.
Non, tu n'apprends pas de tes erreurs. Hein.
Oups.
Franchement, qui peut l'en empêcher?
C'est terrible, mais ce qui va revenir dans les bouches, c'est Djokovic.
Ah oui, je l'avais oublié.
En vrai, on rigole.
On verra ce qu'il va faire à Rome, ouais.
Ouais, mais après,
s'il fait un bon truc à Rome, en vrai,
Rome, ça va plus être de la reprise. Moi, je serais même pas étonné qu'il perde contre un joueur un peu lambda. Parce qu'on sait que même Djokovic, en grand chelem, en 3-7 et tout, c'est un joueur différent. Donc, même s'il fait pas forcément une très bonne performance à Rome ou qu'il se fait surprendre face à un joueur un peu plus lambda, moi, ça m'étonnerait pas que ce soit celui qui. En fait, embêter Sinner, c'est genre lui prendre un set, lui prendre deux sets, essayer de le taquiner sur le jeu. C'est ça. Donc, franchement, quand tu vois le joueur qui était un peu haut dans le classement et qui allait un petit peu loin sur terre battue, c'était Fils. Au final, il a pris une branlée. Tu redescends dans le classement, tu vois Zverev, il a repris une branlée. Donc après, tu te dis, c'est qui le dieu du tennis, Djokovic? Moi, peut-être lui, et tu te mets à espérer.
C'est vrai.
Mais
c'est
sinon, il est un peu tout seul.
C'est clair, le paysage, il est quand même triste, quoi. Parce que si on regarde un peu rapidement les autres joueurs qu'on pourrait citer quand même un peu sur terre battue, quelques autres références sur la surface. Moussetti, il est en reprise depuis sa blessure, il a clairement un manque de rythme. On l'a encore vu à Madrid. Demi-Nor, qui peut se débrouiller sur terre battue, c'est clairement pas sa meilleure surface, on est d'accord, mais il peut se débrouiller depuis quelques temps. Il traverse une passe assez compliquée, quand même, Alex Demi-Nor. Rude. Casper Ruud, désolé, hein, mais
ouais,
désolé Marine.
Mon cœur, mais quand même.
Il a joué contre Blox.
Il a joué contre Blox, il a perdu.
Il a
contre
perdu
Blox,
contre
d'ailleurs.
Blox. En vrai, beaucoup de franchement, fautes. Je m'y attendais. Enfin, fou.
Ah ouais,
tu l'as... Il était. Enfin, déjà contre Tsitsipas, il était tétanisé par les points qu'il avait à défendre. Enfin, ça se voyait
qu'il défendait son titre. Hein.
Ça se voyait qu'il était vraiment sous stress et sous pression. Donc, son match était vraiment pas fou. Enfin, pour faire 3-7 contre Tsitsipas, faut le faire. et contre Blox, du coup, qui était, bah voilà, il n'y avait vraiment rien à perdre, la différence se voit direct, quoi. Et je pense qu'il a vraiment perdu au mental. Là après, Ruud, il a fait quoi l'année dernière à Roland? Il a pas fait un truc de. Peut-être 8ème?
Ouais, 8ème ou quart.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Donc, c'est pas...
Je crois pas que c'est plus, mais.
Je vais pas dire que c'est pas ouf, mais ça oui. peut se défendre, quoi. Donc je pense qu'il y aura moins de pression.
Ouais,
c'est ça. Il y aura moins de pression qu'à Madrid. Peut-être qu'il peut faire quelque chose. Après, contre un Sinner en forme, j'avoue que là, bon.
Non, il avait fait deuxième tour l'année dernière à Roland-Garros. Il a fait deuxième tour contre nous. Borges.
Ah oui, c'est vrai, il n'était pas blessé au dos. Je cherche des excuses.
Ouais, toi aussi, tu cherches des excuses, hein, visiblement.
Il n'avait plus, il n'avait plus. Ouais. Ça l'avait
il y avait un peu trop de vent. Bon,
si, ouais. Je m'en souviens, il avait perdu en 5-7, je crois. Il avait été effectivement blessé au dos.
Donc,
c'est comme ça que c'était expliqué.
C'est ça. Et il n'y avait pas grand-chose à défendre pour lui à Roland.
C'est ça. Donc je me dis.
Peut-être Ruud, effectivement, mais c'est vrai que sinon la concurrence est assez.
Ruud.
Ruud, effectivement. pas Ruud, justement. Et c'est vrai que, ouais, du coup, oui, pour Yannick Sinner, ça va quand même être compliqué de trouver un adversaire à sa mesure, en vrai, à part Djokovic, peut-être. Le classement parle pour lui. Il a actuellement, à cette heure, 8545 points de plus qu'Alexander Zverev. Il sera tête de série 2 à Roland. 8545 points de plus.
C'est le monde d'écart.
C'est une galaxie d'écart.
Ouais.
Ouais, bon, écoutez, on verra. Peut-être.
Arthur Fils.
Eh bien justement, j'allais le dire, peut-être Arthur Fils, et vous savez quoi, on va en parler. Arthur Fils, justement, son chemin, il a croisé celui de Yannick Sinner dans ce tournoi à Madrid, en demi-finale. L'Italien, il a été écœurant face à un Français qui était quand même en forme, et saluons tout de même la performance globale de Tuture sur ce tournoi. Il a survécu au premier tour face à la Buse péruvienne, rappelez-vous.
Ignacio
Buse.
Le péruvien, oui.
Un duel totalement épique qui se finit à 7-5 3e, vraiment complètement fou. Un gros joueur sur terre. Il peut être chiant à jouer à Roland, lui. Peut-être une petite surprise un peu sympa.
Dans le bon terme, évidemment.
Oui. Non, je l'aime pas. je l'aime pas. Non, évidemment, belle performance de Ignacio Buse. Et après, Arthur Fils a poursuivi tranquillement son chemin. Trois belles victoires quand même contre Nava, Echeverry et Lechka qui l'ont amené encore une fois dans le dernier carré d'un Masters 1000. Petit rappel quand même pour Arthur Fils, en 2026, trois Masters 1000 pour lui. Résultat, un quart de finale à Indian Wells. Une demi à Miami et une demi à Madrid.
Ça va.
Même propre.
C'est super propre.
Et son classement s'en ressent puisqu'il a intégré lundi, réintégré même le top 20 du classement au PIF à la 17e place mondiale. Et bonus, il est aujourd'hui 4e à la race.
Oui, ce que j'ai demandé à la race.
Ça, c'est
il
trop
est 4e à la race, Arthur Fils. Donc, clairement, peut-être un outsider de poids pour Roland Garros. Qu'est-ce qu'il peut viser selon vous à Roland? Il ne défend pas non plus grand-chose. Il se défend un deuxième tour l'année dernière à Roland. Donc peut-être aussi.
Blessé au dos, si je ne
me sa fameuse blessure au dos.
Contre tout le monde se souvient.
Donc qu'est-ce qu'il peut viser selon vous, Arthur Fils, à Roland?
Je pense que ça dépend vraiment du tirage. S'il est dans le tableau de Sinner, proche de Sinner, on va être plus sûr.
Comme tout le temps? Non, parce qu'en fait,
ouais,
on est toujours
ça.
À Rome, on va en parler. Il est encore tombé
Rome,
du côté de Sinner.
Je pense que tout dépend du tirage, mais honnêtement, il peut faire un bon truc, à mon avis.
Bah oui, surtout qu'on vient de le dire, les cracks sur terre battue sont pas forcément très au rendez-vous, sont pas tous en forme. Contrairement à lui, où là, en fait, son jeu s'est hyper bien adapté à la terre battue. L'année dernière, quand il avait enchaîné trois quarts, je crois, sur de la terre battue en Master 1000, quelque chose comme ça, il avait dû faire Monte Carlo, Rome, Madrid. Enfin, on était en mode, ah tiens, c'est étonnant de le voir aussi bon sur terre battue. Et là, en fait, on sait qu'il est excellent, qu'il peut être super fort. Donc, franchement, moi, je pense qu'il peut viser très haut, mais effectivement, c'est sûr que ça dépend de qui tu croises. Si t'as un Djokovic en quart, un Sinner en quart, etc., ça peut s'arrêter plus tôt que si tu peux les rencontrer en demi-finale.
Est-ce que déjà, on peut dire qu'une deuxième semaine, ce serait un superbe objectif?
Je pense même qu'une deuxième semaine, pour lui, là, actuellement... je pense qu'au minimum. En vrai, ça serait peut-être une déception pour lui de ne pas aller en deuxième semaine.
C'est clair.
C'est le plancher, une deuxième semaine, quoi.
En vrai,
ce qu'on peut se dire.
Au vu de comment il est revenu de sa blessure, etc., au vu de ses résultats, au vu des joueurs qui bat et la facilité dont il peut les battre, une deuxième semaine, c'est clairement pas inenvisageable. C'est même l'objectif.
Inenvisageable.
C'est dur à dire.
C'est dur à dire.
Et j'ai dit non à l'eau et maintenant je bégaye.
voilà. Là, je t'avais dit qu'il fallait prendre un verre d'eau avant le début de l'émission.
Buvez de l'eau, les jeunes.
Évidemment. Toujours les bons conseils de Simon. Et d'ailleurs, Simon, je crois que tu as des petits conseils à nous donner. Parce que contrairement à Arthur Fils, il y en a un qui n'a pas été très en forme à Madrid, c'est Marin Cilic.
J'ai eu peur, t'as dit Marine, je me suis dit, ouais, j'ai bah rien oui, fait toi. Moi.
Oh, je révise.
Mais non, mais le meilleur ami de Richard, il a été victime d'une intoxication alimentaire.
Ah bah décidément, Madrid...
C'est terrible.
Il a mangé avec Iga, ça se sent.
Ah bah, mais ouais, peut-être...
C'est la paella aussi.
Ouais, je pense. Non, alors, pour le coup, j'ai regardé, il y en a qui parlaient de tacos aux crevettes.
Oh, c'est tacos aux crevettes.
Alors, je ne sais pas qui mange ça. Oui, oui, Emile me regarde avec des yeux français.
Atroce.
Oui, c'est absolument atroce. Et ça serait peut-être à l'origine d'une intoxication.
Ça ne m'étonnerait pas.
Bah, en même temps, quelle idée saugrenue de manger.
J'ai
ça.
Mangé de la pelouse.
Bah oui, faut pas vous étonner.
Tu veux tenir, mon gars.
Bon, en tout cas, Marin Cilic, il avait mal au ventre, quoi. Bref. Et depuis Zagreb, branche-toi sur Phoenix, Marin Cilic, parce que écoute donc ces précieux conseils nutrition prodigués par notre médecin préféré. Il soigne notre mental et maintenant notre estomac. C'est Simon. Et c'est l'heure de son amour. Amorti rétro.
3, 4. Foot, 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 foot.
Et oui, rappelez-vous, il y a quelques émissions, je vous donnais des conseils pour améliorer votre mental de façon fulgurante. Aujourd'hui, je voulais continuer à vous donner quelques conseils. J'avais même contacté certains mentalistes, dont le meilleur de tout le Calvados. Certains l'ont peut-être déjà vu lors de la rencontre intercommunale mélangeant les seigneurs de l'EHPAD Born Today aux stripteaseurs de Vitry-en-Orne, puisque dans cette rencontre, c'est là que dans cette rencontre, notre mentaliste en question, Firmin Devine-Tout, a pu me montrer qu'il avait du talent, réussissant notamment à deviner qui parmi les seigneurs allait mourir en premier. Petite pensée à Françoise Guerlédan, première sur cette liste. Désolé pour toi. Bref, il était normal donc de le contacter pour cette chronique sur le mental, mais au dernier moment, il a décliné l'invitation en me disant qu'il avait autre chose à foutre. Hein, un peu comme Richard, finalement.
Oui, finalement, ouais.
Alors, à l'inverse de Zverev, dans les coups durs, je sais m'adapter. Je vous propose aujourd'hui de revenir sur la nutrition, car c'est un aspect important et bien souvent négligé dans le monde du tennis amateur et non professionnel. Aujourd'hui, s'entraîner régulièrement et avoir un mental d'acier ne suffit pas toujours pour passer un cap au tennis. Selon une étude rédigée par le centre de sondage idiot, les facteurs de victoire dans un match de tennis seraient dus à 70% grâce à un entraînement régulier, 28% le mental et 24% la nutrition. C'est donc un aspect à ne surtout pas
négliger. Ça fait plus que 100%, ça.
Ah bon ? Bon, bref, évidemment, chacun est différent et l'apport nutritionnel ou de Nutri-Score dépend de chacun. Pour autant, il y a des techniques qui peuvent marcher pour tout le monde, dont la première que je vous donne, essayez de vous alimenter 3 heures avant l'effort ou 2 heures voilà, avant l'effort ou 1 heure, 30 minutes, enfin, vous savez quoi ? Et pour faire peur à votre adversaire, arrivez devant lui en bouffant des pâtes sur votre raquette et continuez de manger des pâtes durant tout le match. À chaque changement de côté, votre corps sera blindé en lipides et en glucose halieutique. Votre ventre vous remerciera et votre jeu aussi, et votre adversaire se dira mais c'est qui ce 35 là qui carbure à la pasta box tout le match. C'est complètement énorme. Ensuite, privilégiez plutôt les féculents ou en tout cas les glucides. Les inscriptions au tournoi coûtent cher en euros et les matchs coûtent cher en glucides. C'est ce qu'un grand nutritionniste a dit, Frédéric Devine-Tout, le frère de Firmin. Quelle famille. Fred Devine-Tout s'est fait connaître en 2015 pour son livre sorti en 2013, 25 raisons pour suivre un régime à base de légumineuses. La consécration arrive pour lui en 2016 avec son deuxième livre sorti en 2014. Hop là, v'là 39 autres bonnes raisons pour suivre un régime à base de légumineuses. Problème, la carrière de notre Frédéric s'écroule en 2018. Il est accusé d'avoir dévoré sa famille. Un comble pour un nutritionniste. Une accusation de cannibalisme réfutée par Fred, qui sera déclaré finalement coupable après que l'on ait retrouvé l'appareil dentaire de sa fille, l'alliance de sa femme et les poilons de la machine à raclette dans les excréments de Frédéric. Frédéric s'est défendu face à ses preuves en disant qu'au moins dans ses excréments, il y avait des légumineuses. Cela n'a évidemment pas suffi pour l'innocenter. Après ce procès, l'avocat de celui-ci sortira un livre sorti en 2019 qui s'appellera 54 raisons de ne pas suivre Frédéric Devine-Tout. Bref, quelle affaire. Bon, bah, du coup, je me suis un peu perdu. Ça arrive quand on parle de ses idoles. En tout cas, pour en revenir à la nutrition, que vous soyez tennisman ou pas, buvez de l'eau, mangez équilibré et de temps en temps, octroyez-vous le droit de combler cette envie avec du houblon à deux chiffres.
Du houblon à deux chiffres.
La 8-6.
La 8-6, évidemment. Oui, on est d'accord. Donc, un régime à base de légumineuses, c'est ce que tu nous prescris.
Je dirais que ça, ouais. Enfin, c'est pas moi qui le dis. Hein.
C'est, oui, c'est Fred. Qu'on salue de les où il nous écoute, évidemment.
Florimir Rogis.
Directement. Merci, Simon, pour cette. Encore une fois, des conseils, vraiment, mais.
Ah, attends.
Qu'on suit à la lettre.
Hein, ah oui.
Ah oui.
Qu'on va suivre à la lettre, et vous allez voir, dans quelques mois, on sera tous négatifs. À quoi ? On sait pas.
Moins 30 points.
Hot !
Au moins ça, moins 30 points, je pense. Revenons à un joueur maintenant qui a lui tiré les marrons du feu à Madrid. Il est belge. Et oui, qui a dit que c'était la crise dans le tennis belge ?
Ça dit que c'est la crise, mais ça paye des bières à 2,75€ le ticket. Je suis désolé, mais la crise, tu me diras où est-ce qu'elle est.
Bah oui, tu me diras où est-ce qu'elle est.
Pour une belle tournure à l'émission.
Pour une belle tournure à l'émission, on parlait de houblon il y a deux secondes, tu vois. Finalement, on se rejoint, hein, Simon.
J'ai soif.
Bah oui, bah je sais bien. Écoute, on va essayer de finir assez vite. David Goffin dira au revoir au tennis en fin de saison, mais n'attendez pas pour dire bonjour à Alexander Bloks. Il faudra lever la tête un peu parce que monsieur est grand. 1m93 pour le joueur de 21 ans qui fait parler de lui depuis quelques mois. Il a été finaliste du Masters Next Gen fin 2025 contre Lerner Tien. En début d'année, il a gagné le Challenger de Canberra face à un certain Raphaël Rodal. Et oui, comme quoi...
Tu le dis toujours aussi bien.
Ah, oui, mais écoute, je l'aime beaucoup, Raphaël.
Quand on est pro, on est pro.
Ouais. On fait ce qu'on peut, quoi, bref. Et notre ami Alexander Bloks, il a aussi fait un huitième de finale à Monte Carlo, début avril. Et donc lui aussi a connu les joies de la demi-finale à Madrid, à la plus grande surprise de son coach, hein, Ruben Bemelmans, qui avait annoncé qu'il ne s'attendait pas du tout à avoir une demi de son poulain à Madrid. Voilà, on a dit on y va, mais on verra ce qu'on y fait. Bah, le mec a fini en demi. Pas mal. Franchement, c'est propre. Et avec un très joli tableau de chasse, hein, pour Alexander Bloks, qui a battu successivement Nakashima, Félix Auger-Aliassime, tête de série 3, Francisco Cerundolo, Casper Ruud, tenant du titre, avant de baisser pavillon face à Zverev, 6-2, 7-5. Et donc, il gagne 33 places grâce à cette performance, désormais 36e mondial, pas loin d'être tête de série à Roland-Garros. On va suivre son parcours avec attention à Rome, ça va être un vrai Bloksbuster.
Oh là là.
Pas mal, non ?
T'es mon idole.
Oh, le niveau.
Non, je l'ai travaillé celle-là aussi. Non, mais en vrai, Alexander Bloks, franchement sympa, ce petit joueur aussi. On l'attendait pas forcément, ce prospect belge, mais il est franchement prometteur.
Bah ouais, why not, hein.
Why not ?
Ouais, why not. Moi, je dis why not. Quel âge il a, t'as dit ?
Il a 21 ans.
Ah ouais.
Tu le voyais plus jeune ?
Bah, j'allais dire 19, tu vois, mais je...
Non, c'est vrai que c'est beaucoup plus jeune.
Je suis généreuse.
Alors, oui, j'ai une petite anecdote sur sa vie.
Vas-y.
Il a, quand il était jeune, quand il était minot, en fait, il était petit. Et là, il fait 1m93. Parce qu'en fait, il a poussé d'un coup.
Il a poussé d'un coup.
Mais du coup, cette poussée, ça lui a donné bah, des problèmes un petit peu aux jambes, etc.
Okay.
Quand tu grandis trop vite, oui, tu sais, ton corps ne se forme pas forcément. Et du coup, il pouvait pas faire plein d'entraînements. Et c'est pour ça qu'il a pas pété aussi jeune qu'il l'aurait dû. Parce que bah, il a mis du temps à grandir, du temps à pouvoir reprendre les entraînements de manière régulière et très poussée. Voilà.
Toi aussi, t'as poussé d'un coup un peu finalement. T'es un peu sur la même trajectoire.
Pourquoi ? J'ai poussé où ? Il y a rien qui a poussé ma barbe. Je suis un berbe, gros. Ça se fait pas.
Mais non, mais ce que je dis, du coup, c'est que t'as pas forcément fait autant d'entraînement que t'aurais dû. C'est pas ça.
Moi, ouais, même. Moi, j'ai lâché les entraînements. Mon
c'est un peu ça le souci. Non, mais en vrai, Alexander Bloks, franchement, gros tournoi pour ce jeune Belge qu'on n'avait pas forcément vu venir.
Personne n'avait vu venir.
En vrai, personne.
Même son entraîneur l'a dit. Il n'avait pas vu venir.
Franchement, et c'est vrai que là, bah, du coup, 36e mondial, il y a quand même quelque chose à jouer, quoi.
Il faut qu'il tienne son rang maintenant.
Ouais, mais enfin, il a quasiment rien à défendre sur la deuxième partie de saison.
Non,
très, très peu
non, mais ce que je veux dire, c'est que là, il a fait une percée au classement. Il oui, faut qu'il assume, quoi.
Ouais, mais bon, il va pas redescendre de sitôt.
Oui, classement. Mais oui, les gens se disent vrai. Ah tiens, ah tiens, ah tiens.
Oh, on les connaît, les phénomènes comme ça.
Vous êtes exigeant avec notre ami Alexander.
Non, non pas du tout, très
c'est
fort.
Parce qu'il s'appelle Alexander, c'est ça.
Ouais, voilà.
J'en avais marre, en fait, des Alexander.
Sacha Bloks, c'est Sacha bon.
Il est quasiment aussi grand que Zverev, enfin, 93.
Oui, c'est vrai.
Franchement, c'est un peu les mêmes types de joueurs.
Ouais, mais pas le même gabarit.
Peut-être plus solide face à Sinner.
Il est plus stock Bloks.
Ah ouais ? Tu l'as vu ?
Bah, Zverev, il est longiligne.
Ouais, bah, Bloks est assez frêle.
Ouais,
assez
mais il a une carrure, je trouve.
Il ressemble beaucoup à Milos Raonic aussi. Je sais pas si vous l'avez regardé un petit
oui,
peu.
Oui.
On est d'accord.
Je suis d'accord de
il
fou.
Il a des airs de Milos
ouais,
Raonic.
Ouais, je suis d'accord de fou.
Peut-être que c'est lui finalement. C'est peut-être sa réincarnation.
J'espère pas.
Bah, mais il est pas mort, Raonic.
Ah oui, non, c'est vrai, effectivement.
On dit sosie, je crois.
Sosie, oui, c'est vrai que le terme pour les vivants, c'est sosie, t'as raison. Non, mais enfin, en tout cas, voilà, un nouveau jeune prospect à suivre dans les prochaines semaines. Peut-être à Roland-Garros, d'ailleurs, il va se distinguer.
Pour vous, il ira plus loin que Rodar, Bloks ?
Ah, bah, et pourquoi pas, ça peut être un petit duel,
ouais,
petit match dans le match.
C'est vrai, en vrai de vrai.
On va regarder ça, on va suivre ça, notamment à Rome, puisqu'ils sont tous les deux alignés à Rome, Rodar et Bloks. Et ben, si vous nous écoutez en direct, c'est l'heure de la pause musicale. Il y a un instant, on était en Belgique avec Alexander Bloks. Eh bien, on va y rester en écoutant un titre de Jean Jass. Ça s'appelle Métastase et c'est tout de suite sur Radio Phoenix.
Hommes, sinon tu dégages de l'équipe. Je veux être sûr que l'info passe, on s'en tient au plan. Une belle chirurgie après un gros casse. Survêt pas assorti, on dirait pas que je suis plein aux as. Peut-être que je mens ou pas, j'ouvre mon appli bancaire.
C'est quoi qui a écrit là?
C'est pas un job alimentaire. J'arrive en paix mais je vais repartir en guerre. Attends que les bails sortent, entre deux prises ça guette les matchs sur live score.
Putain j'ai envie de parler. Toi t'as mis quoi toi?
Pas grave si je dois tout refaire. Je viens de la débrouille, la bricole. Les embrouilles, la picole. Vie de rêve, des pères qui tapent, des mères qui se taisent, mais tout va bien. On continue à se dire je t'aime. Des crises d'angoisse, des troubles de l'attention. Des gens qui triment toute une vie et qui surpent un cancer à la pension. À bout de force, c'est pas une ville, c'est un coupe-gorge. Je te présente le truc, mon rap, c'est un mood board. Qui te laisse horrifié, pas de récit à enjoliver. Mon life goal, c'est un terrain, quelques bêtes et des oliviers. Loin de votre justice aléatoire, aucune logique, allez savoir. Rien à célébrer, mais j'ai ramené à boire. On partage si tu veux, les mauvais jours, les bons aussi. T'as fait ce que t'as pu, t'as fait ton possible. Ma petite nièce rêve de devenir une méga star. La folie se propage comme les métastases. Personne ne bouge, vous attendez que ça se tasse. Bande de merde.
C'était Métastase, un des deux premiers tracks du nouvel album de Jean Jass. Ça s'appelle Les Chants de Sac Plastique et ça sort dans deux semaines, le 22 avril. Pleine balle, ça continue avec le tableau féminin. À présent, le WTA 1000 de Madrid était honoré de la présence du gratin mondial. Mis à part Anisimova, tout le top 10 était présent dans la Caja Mágica. Le duo Sabalenka-Świątek avait cannibalisé 3 des 4 dernières éditions du tournoi. Et si le duo Sabalenka-Rybakina avait raflé plusieurs trophées juste avant Madrid, eh ben elles se sont cassées les dents sur l'ocre madrilène. Un petit point sur Świątek ou pas, Marine?
Arrête!
Ça devient vraiment chaud hein, pour Iga quand même.
Elle était malade.
Oui, non, mais enfin, d'accord. Mais,
attends,
le résultat
c'était son
elle-même.
Deuxième abandon dans toute sa carrière.
Oui, bah,
d'accord.
Écoute,
donc, si elle a dû abandonner, c'est parce que c'était vraiment nécessaire.
Oui, bah, le résultat est quand même là. Hein. Une nouvelle défaite prématurée pour Iga Świątek.
Est-ce qu'on peut vraiment parler de défaite?
Bah, oui.
Elle a pas fini le match.
C'est dingue de pas être objectif à ce point. C'est fou. Bon, bref, en tout cas, ça, ce qui est indéniable, c'est qu'elle n'a toujours pas rejoint une demi-finale cette
ouais,
saison.
Ouais, non, mais ça me fait peur.
On est au mois de mai, hein, quand même, il s'agira de se réveiller.
Non, mais là, à Rome, elle va tout péter, moi.
Oui, bon.
Je le sens. Non, mais ouais. On s'est fait un petit call et.
D'accord. Et les pronoms, c'est dans quelques minutes. Jasmine Paolini aussi, qui marque le pas ces dernières semaines et qui va défendre là de très gros points à Rome, parce qu'elle est tenante du titre. Voilà, littéralement son titre, donc 1000 points à défendre. Coco Gauff aussi, mine de rien, elle va remettre dans pas longtemps son titre en jeu à Roland, 2000 points. Pour elle, donc ça va faire des gros points et c'est vrai qu'elle n'est pas non plus sur une dynamique extrêmement, extrêmement glorieuse pour Coco Gauff, donc attention. Et donc ouais, de manière générale, les patronnes ont été un peu à la peine sur ce tournoi de Madrid. Qu'est-ce que ça vous inspire là, peut-être pour Roland d'ailleurs, est-ce que ça présage peut-être de surprises à Roland-Garros?
Bah oui, complètement.
Oui, ok.
Ouais, ouais. Parce que comme tu l'as dit, les têtes de série ne sont pas forcément présentes. Est-ce que tu vois Anisimova aller loin?
Alors, Anisimova, d'ailleurs, on le précise, qui vient de faire forfait également à Rome.
Oui.
Sa présence à Roland est quand même aussi incertaine pour
Anisimova. Bah, ça fait plusieurs tournois où elle fait forfait en plus.
Bah ouais, ça fait quand
Madrid
même plusieurs...
a été dur. Forfait.
Ouais, Madrid ouais. Forfait.
À cause du poignet.
Elle aussi.
Décidément.
Mais du coup, oui, Simon, oui, tu le disais, là, évidemment, peut-être des surprises à venir à Roland, même si, bon, on va quand même tempérer. Madrid, ça reste aussi un tournoi particulier,
hein,
en altitude,
rapide,
etc.
Et tout, ouais.
Sabalenka n'a pas non plus accumulé 40 défaites non plus de suite. Hein, mais...
Non, mais Sabalenka, elle va aller en finale de Roland, mais elle va perdre en finale.
Contre qui?
Mais contre qui, tu vois, c'est ça la question. Ça
c'est
dépend
ça
du
la question.
Tirage.
Non, c'est vrai que ouais, les patrons à la peine, Marine, ta chérie Gaziantep, non, c'est fini. Tu restes accroché au bateau.
Oui.
Tu penses qu'elle va sortir la tête de l'eau pour Roland?
J'espère de tout cœur. Mais si, en vrai, c'est faisable. J'y crois.
Tu crois?
Ouais.
En tout cas, c'est bien d'avoir un Roland Garros comme ça qui est super ouvert.
Qui s'annonce quand même
plutôt chez
ouvert,
les filles, ouais. Chez les mecs, c'est plus chiant, mais chez les filles, pour le coup, moi, je vois bien une petite surprise.
Ouais, est-ce que des seconds couteaux, peut-être, peuvent tirer un peu leur épingle du jeu? Peut-être des Mourova, des Osaka.
Oh, mon rêve, Mourova qui. Oh.
Les Bencic, ça va être sont pas trop mal classés, qui sont dans le top 15 et qui peuvent peut-être. Voilà,
est-ce que Kostyuk sur sa vague va-t-elle réussir à.
Ça serait trop bien,
ça serait incroyable, hein, potentiellement un triplé sur terre battue pour elle cette année.
Le triplé, j'attends qu'il y a Roland Garros dans le triplé.
Ce serait quand même pas
sacré
mal.
Sacré triplé. Hein.
Donc en tout cas, ouais, des
Mirandreva, bon, qui est quand même assez. Connu, en tout cas installée dans le top 10.
Elle est installée dans le top 10 et elle ressort la tête de l'eau un petit peu là.
Ah bah complètement,
André,
ouais.
Ouais, je trouve que mentalement elle est toujours.
Hyper friable,
ouais,
je suis hyper d'accord.
Il faut qu'elle travaille. Bah, c'est une gamine, hein, mais.
Elle bon, bah,
ouais, va falloir arrêter de le dire à un moment donné parce que. Oui, non, elle grandit. Mais
enfin, rappelons quand même qu'elle
reste
jeune.
19 ans.
Elle reste
oui,
jeune.
Mais...
On prend pour acquis le fait qu'elle voilà, maintenant elle est installée.
C'est
dans nos têtes, on pense pas que Coco Gauff a 22 ans, alors que ça fait 10 ans qu'on connaît Coco Gauff quasiment sur le circuit.
Mm-hmm.
Elle a que 22 ans. Donc elle reste encore quand même extrêmement jeune. Donc faut
ouais,
quand
bah,
même,
bah, justement,
le rappeler, quand même.
La différence entre Andreeva et Coco Gauff niveau mental, même si Coco, c'est pas non plus la plus solide mentalement.
Il y a des hauts et des bas.
Mais entre les deux, je trouve que la différence, elle est énorme déjà.
Ah ouais.
Et que bah, Coco elle est beaucoup plus solide que Andreeva qui flanche ultra facilement. J'ai beaucoup de respect pour la performance de Loïse Boisson, mais pour moi elle arrive en demi parce qu'elle a eu justement Andreeva en quart.
Oh, ça c'est une. C'est
mais
une take, ça.
Même si voilà, elle a pas tout fait, on est bien d'accord, mais pour moi Andreeva a succombé à la pression. Bah, une Française qui joue en quart
oui,
devant son public, évidemment, il y a beaucoup de pression. et mentalement, elle a complètement flanché. Donc.
C'est vrai que oui, c'est une marge de progression énorme.
En plus, c'est,
ouais.
C'est un flanchage, je sais pas si on peut dire ça. En tout cas, après cette défaite à Roland Garros, elle a eu du mal à s'y remettre.
Ah bah oui, ça a dû faire mal.
Ouais, ouais, c'est une défaite qui lui a trotté certainement un peu dans la tête. Peut-être Andreeva, qui peut-être va. Si elle ne croise pas le chemin de Loïse Boisson cette année à Roland, peut-être qu'elle va faire quelque chose.
Ou est-ce que Loïse Boisson, c'est une menace. Pardon.
Oula. Non, pas forcément. Oui, on pourra en parler un petit peu après, mais. Bon, bah, on parlera dans les pronos de Loïse Boisson, parce que son parcours à Rome, il est déjà terminé. Emile est toujours aussi fier de sa virgule du sport, c'est son moment de fierté, Emile. Et tu as bien raison, mon Milou. Pour l'instant, on reste à Madrid. En Rome, on va y venir dans quelques minutes. Donc on l'a dit, les patronnes étaient un petit peu à la peine en Espagne, mais ce n'était pas le cas de tout le monde. On va revenir sur quelques belles autres surprises juste après. Mais parlons quand même du tournoi exceptionnel de Marta Kostyuk. Un instant, l'Ukrainienne avait tenu son rang à Rouen en remportant logiquement le tournoi. Elle était tête de série 1. Pour autant, la Madrid, elle n'était que tête de série 26. Au départ, mais elle a d'abord terrassé Pegula au troisième tour, 6-1-6-4, ce qui lui a permis de croire à une belle épopée. Et ensuite, les défaites un peu prématurées de Mboko, de Gauff et de Rybakina un peu plus bas dans le tableau lui ont ouvert les voies de la finale. Mira Andreeva, justement, c'était le dernier obstacle sur son chemin. Et la Ukrainienne a géré parfaitement la finale hein, de bout en bout. Victoire 6-3-7-5, son premier titre en Masters 1000. Et Marta Kostyuk reste pour l'instant invaincue sur terre battue cette saison. Une outsider de plus pour Roland-Garros ou pas?
Ouais, grosse outsider.
On l'a parlé un petit peu à l'instant, mais ouais, grosse outsider pour toi, Simon.
Bah, dans son jeu, dans tout ce qu'elle propose, même mentalement, tu vois, quand tu vois le match contre Mirandreva, en fait, tu t'aperçois qu'elle est mais bien plus forte, bien plus solide.
Ouais.
Donc, tu sens que c'est une joueuse... tu sais, on parle souvent justement de ce côté un peu fulgurance de joueurs qui arrivent dans le top 20 d'un coup et tu te dis « Ah tiens, qu'est-ce qu'elle fait là ?» et qui redescend ou après qui galère un petit peu dans le top 100. Elle, il y a plus ce côté, elle monte progressivement... Elle gravit les échelons et tout, et franchement, ouais, outsider, pourquoi pas.
Ouais, ça se fait plus proprement sa progression finalement.
Ouais.
On est moins sur une percée.
Ouais, donc là, elle connaît son meilleur classement en carrière, elle est 15e actuellement
ouais.
à la WTA. Et c'est vrai que oui, elle avait déjà rentré une fois dans le top 20, il me semble, elle était
oui.
redescendue. Et donc là, donc elle remonte vraiment avec ce tournoi incroyable à Madrid.
Elle était 16e son meilleur classement, je crois.
Ouais, je crois que c'était ouais, 16, il me semble que c'était 16e son meilleur classement, la 15e. Et donc, ouais, elle peut regarder peut-être un peu plus haut encore.
Bah oui, en vrai, elle aggrave le niveau. Elle est en pleine confiance en plus. Ouais,
surtout dans le top 10, il n'y a quand même pas des joueurs qui sont des
ouais,
joueuses qui
ça,
sont en totale confiance. À mon avis, Paolini va
c'est
sortir.
Exactement
du top
ce que
10.
J'allais dire.
Ah ouais, Paolini, pour vous, c'est.
Ah ouais, c'est compliqué là, Paolini.
Est-ce qu'elle va peut-être retrouver la foi chez elle, à Madrid? À Rome, pardon.
À Rome.
Elle a gagné en 3-7 là. Contre qui elle a joué?
contre Léolia Jean-Jean.
Léolia Jean-Jean, ouais, elle a quand même perdu un petit set. Bon, on est sur un premier set, donc.
Ouais, mais Sinner aussi avait perdu son premier set à Madrid.
Ah, bah, oh, mais c'est bon alors.
Ah, bah, c'est bon, c'est gagné, voilà.
Ils sont italiens en plus, ouais, en plus c'est de bon, ça, c'est voilà. Pareil.
Non, mais c'est vrai que franchement impressionnante. Hein. Marta Kostyuk, elle a bluffé vraiment son monde, une finale vraiment conquérante pour l'Ukrainienne. Et moi, j'ai peut-être une petite théorie sur le fait qu'elle gagne des tournois, elle n'a plus fini sur terre battue. Moi, je crois avoir une idée. Elle a un porte-bonheur sur le circuit.
Ah, son chien.
Ah, non, ça aurait pu.
Son chéri.
Aussi, mais moi j'ai trouvé c'est... autre chose. L'arbitre de la finale à Rouen, c'était le même arbitre
mais non.
de la finale à Madrid.
Ah, mais incroyable.
Toi, t'as
ça.
De la vraie stat. Hein.
Et ça, c'est de la stat. Ça.
Comment
ça,
tu vas chercher info. Des infos comme
c'est
ça.
C'est Pierre Bakis, c'est un Français en plus, Cocorico, franchement.
Ah, mais un Français sur la
quelque part, il a gagné.
Ben voilà, un Français a gagné à Madrid. Voilà. Non, mais ouais, c'est, je trouve ça rigolo. Alors que c'était les mêmes arbitres et peut-être que ça, qui sait, peut-être que ça joue ou pas du tout. Moi, je pense que.
Faut pas qu'elle s'en rende compte parce que sinon, il va y avoir du taf. Hein.
Bah, du coup, il faut le mettre en finale au moins, ou surtout ces matchs à Roland.
Ouais,
au
c'est
moins,
ça.
On est sûr.
C'est compliqué là.
C'est compliqué. Après, ça fait jamais que 7 ou 8 matchs. Hein.
Ouais, mais l'impartialité est pas folle là pour le coup.
Ouais, ouais, bon, on va pas le dire. On coupera ce passage au montage du podcast comme ça on... et on le remettra après Roland. Quand elle aura gagné Roland, que ça, on mettra la puce à l'oreille aux organisateurs. Non, mais enfin voilà. En tout cas, Marta Kostyuk, 15e mondial, est peut-être un nom à retenir pour sa liste de favoris à Roland Garros. That's good stuff. All out of tech from Federer. Et ailleurs dans le tableau, bah Madrid, le tournoi, hein, il a été fidèle à sa réputation de tournoi plutôt imprévisible. Un quart de finale, Pliskova-Potapova. Fallait le pronostiquer, celui-là, quand même. Potapova s'en est extirpée avant de s'arrêter un peu plus tard en demi-finale, mais son tournoi, il est quand même fou aussi, hein, parlons-en une seconde. À la base, elle s'incline au deuxième tour des qualifs contre sa compatriote Signa Kraus, 103e mondiale. Oui, mais Anisimova déclare forfait. Elle est donc repêchée, exemptée de premier tour, parce qu'elle prend la place d'une tête de série, donc bye
oh,
au premier tour.
Incroyable,
et
ça oui.
Et après, elle bat Ostapenko, entre autres, Rybakina. C'est la seule à avoir pris cette Kostyuk aussi, hein, en demi.
Oui.
Et donc, Potapova, grâce à ce tournoi, est maintenant 38e mondial. Donc franchement...
Pas mal.
Une petite escapade madrilène plutôt sympathique pour Potapova. Et une autre surprise, une américaine, encore une qui se replace au classement. Elle est 25e mondiale là du coup depuis lundi, c'est son meilleur classement elle aussi en carrière. Et elle s'est payé le luxe quand même de faire tomber la numéro 1 mondiale, Arina Sabalenka, quand même, dans un match là aussi totalement fou puisque Sabalenka a viandé 6 balles de match.
Ouais.
Et donc son nom c'est Ailé Baptiste, on en avait parlé rapidement dans une émission précédente, Richard ne la connaissait pas d'ailleurs.
Oh, c'est
et
honteux.
Je pense que beaucoup ne la connaissaient pas en vrai.
C'est honteux.
Ça arrive, je peux le comprendre.
Tu la connais pas ?
Non.
Ailé Baptiste, 25e mondial désormais, alors qu'elle n'avait jamais dépassé le 3e tour en Masters 1000. Là elle vient d'enchaîner un quart à Miami et une demi à Madrid.
Trop stylé.
Deux derniers Masters 1000, franchement... parcours plutôt sympa aussi et un jeu très agréable. Je sais pas si vous voulez regarder un petit peu.
Ouais, 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 très. Mais je la connaissais, j'avais, je sais plus où c'était. Je crois que c'était à l'US Open l'année dernière. Elle était en double mix avec Shelton et c'est là où je l'ai découverte parce qu'elle avait une vibe un peu avec Shelton quoi.
À la cool, à la chill.
Ouais,
à
c'est
à
ça. Cool, ouais, genre ambiance cool, ouais. Match par équipe détendu. Et ouais, non, bah jeu de gaucher très plaisant et puis elle a une bonne attitude sur le terrain. Franchement, j'aime beaucoup cette joueuse.
Elle joue assez offensif en plus.
Ouais.
C'est ça, elle a multiplié les amortis.
Et elle a eu quelques percées dans certains tournois. Et en vrai, elle cause des petits problèmes. Quoi. Bon, on l'a vu avec Sabalenka du coup, mais. Un nom à retenir, je pense. Ça peut être pas mal.
Elle fait tête de série à Roland. Donc,
ah.
Bah, elle est 25ème.
Ah oui, 25ème.
Donc là, globalement,
ouais.
Elle va pas être trop embêtée. Et ça fait une 6ème américaine dans le top 25. Les Américaines sont
on
là. Hein. Ah ouais, non, ça te plaît pas
Non, mais. Non, je
non, non compris, ça te plaît. Mais tu peux le lire. Hein,
non, mais c'est un grand pays aussi. Voilà.
Oui, bon, il n'y a pas 6 Polonaises dans le top 25, on a compris. On a compris que tu étais l'ambassadrice de la Pologne dans cette émission, mais enfin, quand même. Il va falloir aller voir un petit peu ailleurs aussi. Il faut accepter, voilà.
Oui, bon,
Outre-Atlantique.
Outre-Atlantique, voilà, exactement.
Non, mais à Paris, chez les mecs, en plus, c'est bon, quoi. Je rigole, j'ai rien contre les USA.
Écoute, voilà, les représentantes américaines sont là, en force. On peut rien y faire, que voulez-vous, c'est comme ça. C'est ce qu'on pouvait dire globalement sur ce tournoi de Madrid. On va continuer à en parler rapidement. J'ai une dernière petite anecdote sur ce tournoi. Et c'est l'heure d'une nouvelle rubrique dans l'émission. Maintenant, elle est déjà totémique, cette
nouvelle.
Rubrique. Ce sont les brefs de comptoir.
Oh. Certaines infos sont importantes, il faut en débattre. Et d'autres, bon... Mais on peut en parler, quand même.
Du coup, on en parle ?
On en parle.
Allez, on en parle.
Les brèves de comptoir, ce jingle est toujours aussi savoureux. Hein. Franchement, oui. On s'en délecte toutes les.
L'émission,
toutes
l'émission en elle-même est nulle, mais les jingles, oh la vache!
Bah pourquoi tu dis ça?
Oh les bon, jingles, on a bossé!
Ah, écoute, voilà, on a mis nos efforts sur les jingles, au moins.
On peut pas bosser, surtout les gars.
Voilà, la prochaine fois, on fera mieux sur le contenu.
Non, le contenu est parfait.
Chaque semaine, on step up un petit peu. Non, connaissez-vous Albano Olivetti?
Bien sûr.
J'ai lu le livre.
Simon, je me tourne vers toi en priorité parce que c'est un spécialiste du double.
Andreeva était aussi en finale du double à Madrid.
Et elle a perdu.
Elle a perdu.
Coup dur pour
elle. Ah,
de finale de défaite. Non, Albano Olivetti, il est 26e mondial du double, donc au classement ATP en double. Il a 34 ans, il fait 2m03. Et pour la petite histoire, dans sa carrière, il a déjà servi à 254 km/h.
Ah, ça va.
Donc, ça vous place un homme quand même. 254 km/h, c'est pas mal. Et donc, avec son coéquipier français Théo Arribagé, ils ont atteint ensemble les 8e de finale à Madrid. Bon, jusque-là, bon, rien de fou. Mais l'histoire rigolote, c'est que le week-end dernier, il a joué les interclubs avec son club de Boulogne-sur-Mer en National 4. Et en double, il était associé à un joueur, Maxime Debakker, pour ne pas le citer, classé 15-3.
Oh,
c'est génial.
Oh là là.
C'est génial, franchement. Une histoire un peu folle. Il pouvait pas jouer en équipe 1 pour une histoire de mutation de joueurs. Donc, il est allé filer un coup de main en équipe 2. Et bien, lui en a pris, puisque Boulogne a gagné la rencontre 4-2 face au tennis club de Tannes, près de Mulhouse, pour les férus de géographie. Et donc, la paire Olivetti, 26e mondial en double, et Debakker 15-3, a gagné donc son double au super tie-break.
Oh,
au super tie-break.
Un super tie-break, un match de fou en plus. Oh, je crois qu'il y a 7-5, 4-6, 18 ou un truc comme ça. Comment ça, c'est honteux?
C'était quoi en face?
C'était une paire non moins déséquilibrée puisqu'il y avait le numéro 69 français accompagné d'un 5-6.
Ah oui, pareil, encore ah une oui fois, les quand même, écarts. Ok, d'accord. Oui, mais ils ont tout joué sur le 15-3 et...
Oh là, mais tu me sabres tout aujourd'hui, toi. Qu'est-ce que c'est que cette... On sait que Swiatek ne gagne plus un match, c'est pas une question pour...
C'est les retours de Partiel, c'est le retour.
Oui, c'est vrai que c'est le retour de Partiel, on t'en veut pas, tu es fatigué.
T'as une haine à déverser, vas-y dans l'émission.
Vas-y, bon voilà, pleine balle et ton défouloir, bon bah écoute, tant pis, c'est comme ça. Non mais voilà, une histoire un peu sympa quand même.
C'est vrai qu'il était dans les allées de Madrid avec les meilleurs joueurs du monde.
Ils ont perdu contre la paire qui a gagné le tournoi en plus à Madrid.
Ah oui, quand même.
8 jours après, il joue avec un 15-3 en interclub.
Franchement, il est gentil. Hein.
Franchement, c'est cool. Il a gagné son simple et il a gagné donc en double.
Ah, il a joué en simple en plus.
Ouais, il joue en simple numéro 1, il a gagné.
Mais quand t'es un passionné, t'es un passionné.
Bah, t'es un passionné, voilà. Albano Olivetti, voilà, c'est son nom et c'est sa petite histoire sympa.
Très sympa.
Donc après son tournoi de Madrid. Deuxième petite info, et là par contre, c'est un truc un peu plus sérieux. Un mot aussi, quand même, d'une vague de protestation là, qui grimpe sur le circuit depuis quelques jours. Je sais pas si vous en avez entendu parler.
Ouais.
Le point de départ de cette crispation, c'est la révélation du prize money de Roland Garros. Je le disais tout à l'heure, donc en hausse globale de 9,5%. Une hausse encore plus marquée pour les qualifs, plus 12,9%. Par exemple, Simon, si cette année tu perds au troisième tour des qualifs à Roland, tu gagneras 48 000 euros.
Wow.
C'est pas mal.
Ah ouais.
Donc tu sais ce qu'il te reste à faire. Va au troisième tour à Roland.
Non, il faut que je gagne 48 000 euros d'une manière ou d'une autre. Braquer un vainqueur de troisième tour, à la limite. J'irai pas au troisième tour.
N'écoutez pas Simon, ceci est réalisé par des professionnels, évidemment. Ne braquez pas les gens, de manière générale, ça ne se fait pas. Voilà.
C'est pas bien.
C'est pas bien. Merci Marine pour cette conclusion.
En plus, t'es en droit, tu pourrais nous dire. Oui. C'est pas bien, il n'y a pas le droit.
Non, il n'y
a pas le droit. Le droit est
formel là-dessus.
Ouais, pas du tout.
D'accord. Bon, bah, on ne braquera pas les gens qui finiront au troisième tour de Roland. Bref. Non, mais en tout cas, ce qui fait grincer des dents, c'est le pourcentage des revenus du tournoi consacré à la dotation des joueurs et des joueuses. C'est formé un collectif déjà il y a plusieurs mois, au sein duquel, entre autres, on retrouve Sabalenka, Goff, Alcaraz, Sinner, bref, des grands noms, quoi. Et ce collectif, il réclame que le pourcentage, donc en question, soit aligné sur ce qui se fait dans les Masters 1000, où cette part a atteint 22% des revenus générés par le tournoi. Or, pour être factuel, l'an dernier, Roland Garros a généré 395 millions d'euros de revenus, estimés en légère hausse cette année autour des 400 millions. Mais, la répartition telle que je vous en ai parlé atteint, selon mes calculs savants, environ 16%. Donc, vu que vous avez fait SPMAT, hein, 16 c'est plus petit que 22. Voilà, j'ai rien d'autre à dire.
Ouais,
vous avez, oui, tu valides?
Ah, je valide à 100%.
Ouais, je pense qu'on est tous d'accord. Émile, t'es d'accord, 16 c'est plus petit que 22. Ah oui, ah, il a douté quand même. Il a réfléchi un instant. Bon, il est tard, on t'en veut pas, Emile. Bref, donc 16, c'est plus petit que 22, donc joueur pas content. Hein, et pas content du tout, hein, puisque Sabalenka, dans sa conférence de presse elle était assez, assez virulente. Elle a évoqué la possibilité d'un boycott si la situation n'évoluait pas pour les années à venir. Pas pour cette année, je pense, mais pour les années à venir. Djoko a manifesté son soutien, évidemment. Le président de la Fédé italienne aussi a jeté un pavé dans la mare en disant qu'il fallait réfléchir à casser le monopole des grands chelems, de manière générale. Donc à voir ce que ça donne, mais c'est vrai que ça donne un peu à réfléchir, ça prête à réfléchir cette vague de contestation là, autour du prize money.
Après, est-ce qu'ils vont vraiment boycotter des grands chelems?
J'ai un peu du mal à croire quand même, mais bon.
Mais avec ce qu'elle a dit après, Sabalenka, c'était un peu... Comment elle a tourné ça? Un truc du genre, non mais le grand spectacle c'est grâce à nous,
oui, bah,
donc
on
n'est pas là, vous avez rien, un truc comme ça.
Ce qui n'est pas faux.
Ce qui n'est pas faux, bien sûr, mais bon... c'est un peu... Enfin, faut se calmer, quoi. Non, aussi, c'est pas le genre de déclaration de cette manière-là qui va faire qu'on va prêcher leur cause, donc...
Ça envenime la
chose. Si, parce qu'au moins, ça enlève le côté des tournées des grands chelems de leur piédestal, tu vois.
Bon... C'est un grand chelem, quoi, quand même.
Oui, mais je veux dire, si t'enlèves les 20 meilleurs mondiaux.
Ah oui, je vois ce que tu veux dire.
T'enlèves les 20 meilleurs mondiaux, ils boycottent tous, et du coup, genre, à tête de série numéro 1.
Toi c'est...
Non, mais t'imagines, c'est Koboli, la tête de série numéro 1. Bon, tu te dis.
On aime bien Koboli, mais bon.
Ouais, flemme.
On l'adore, mais bon, c'est pas la TP de je sais pas quoi, tu vois.
C'est moins vendeur. Mais ouais,
mais
du coup.
Ouais, ça me paraît bizarre quand même.
Ah ouais, globalement.
Je pense que c'est une menace.
Oui, je pense pas que. T'imagines. Parce que imagine, c'est vraiment Sinner, Alcaraz, Zverev qui boycottent. Est-ce qu'il n'y aurait pas un Musetti qui dit ouais, moi en fait,
bah, c'est ça, bah,
je suis
oui.
Comme eux, mais je m'inscris. L'occasion est parfaite. Donc,
tu ne dis pas ce qui se réveille à ce moment-là. Eh, moi, ça m'intéresse. Hein, je veux bien prendre un grand chelem. Si
moi, s'il n'y a plus les 20 premiers mondiaux, je suis chaud d'y aller.
Moi, j'y vais, je suis là. Moi, le prize
money. Dans un sport aussi où il y a de l'ego, il y a autant de. Aussi individuel, à mon avis, tu ne les vois pas se rassembler pour tous boycotter un grand chelem. Mais en tout cas, c'est dit.
C'est dit, ouais. Ça mérite d'être
c'est
dit.
C'est dit, en plus, c'est dit par la numéro 1 mondiale, donc ça a un fort impact et au moins les gens en parlent. Et au moins l'info se sait, quoi.
Après, la demande se respecte.
Ah, ben oui, oui, voilà.
Effectivement, c'est normal. Mais.
Parce que ça s'inscrit de manière plus générale dans une revendication de mieux flécher les dotations pour les joueurs, en fait, pas forcément pour les vainqueurs de tournois, mais plus pour ceux justement qui s'arrêtent en qualification ou au premier tour des tournois, des joueurs et des joueuses qui vivent un peu plus difficilement aussi du circuit à certains échelons du
club. Oui, parce que c'est aussi pour ça, c'est le fait. Parce que quand t'entends Sabalenka dire on gagne pas assez alors que tu vois ses gains à l'année,
oui,
t'as
évidemment.
Envie de dire, bon, écoute, ma cocotte, je pense que tu peux te débrouiller avec tout ça, mais effectivement, c'est plus pour les 100e premier joueur mondiaux ou les 150. Qui galère, si jamais il y en a un 110e mondial qui arrive à se faire un petit 8e de finale, au moins ça lui refait sa saison, quoi. Donc c'est plus ça, quelque part, les grands se battent pour
les petits
joueurs.
C'est vrai.
Les grands se battent pour les petits.
Non, mais il y a un peu de ça,
et
quoi.
C'est
les
beau.
C'est beau.
Et c'est beau, finalement.
C'est poétique.
Ça qu'on aime, voilà. Les valeurs du tennis, finalement. Non, je déconne. Ouais. Non, enfin, en tout cas, voilà ce qu'on pouvait en dire de cette colère là qui gronde un petit peu à quelques jours de Roland Garros. À voir ce que ça donne dans les prochains mois. Mais à suivre, en tout cas. On passe à la page Normandie à présent. Quelques petites infos à vous partager tout de même. Tout d'abord, on va reprendre les nouvelles de Daniel Jade qui poursuit sur sa bonne forme. Vous voyez, parce que dans la dernière émission, on vous avait parlé du superbe triplé réalisé par notre bon vieux Dany sur 3 tournois du sud de la France sur terre battue. Eh bien, Daniel Jade a encore signé une jolie performance en challenger. Ça, c'est pour l'imitation pour mon Émile. Ça fait 3 semaines qu'il me bassine avec ça, donc voilà, au moins ça s'est placé maintenant. Bref, je t'adore, Émile.
Ah, il est content.
Et il est content. Ah, Émile, on lui a placé son Jean du Jardin. Il est content. Non, mais plus sérieusement, à Aix-en-Provence, il y a un gros challenger hein, là-bas, 175 points à la clé, et Daniel Jade a bénéficié d'une wildcard pour faire ses grands débuts dans ce type de tournoi, et au tirage au sort, il a hérité d'un premier tour contre Martin Landaluce,
à
99e mondial. Bon. Et bien le Normand, de 17 ans, s'en est tiré avec les honneurs, puisqu'il a quand même gagné un set. Bon, il s'est incliné finalement, 4-6, 6-1, 6-3, mais quand même, belle perf pour notre ami Daniel Jade, et cette semaine, il joue un 25 000 $ sur terre en Espagne, à Sabadell, et ce matin même, il a éliminé la tête de série 1 du tableau, le français Dan Hadid, 227e au classement. Donc franchement,
trop
un
bien.
Normand qui perf à 17 ans, on encourage évidemment Daniel Jade et on continuera à l'encourager.
Bravo à lui.
Bravo Dany, continue comme ça, tu nous fais kiffer.
Bravo Dany.
Dans quelques jours aussi, autre petite info, à partir du 17 mai, si vous voulez aller voir du tennis dans la région, on a un tournoi 25 000 $, messieurs, du côté de Deauville, sur les cours du tennis club de Deauville, un tournoi sur terre battue, donc, avec pour l'instant sur la ligne de départ des joueurs comme Geoffrey Blancano, Geoffrey Blancano, rappelle-toi de Geoffrey Blancano qui avait gagné Roland Junior en 2016, je crois, ou 2017, un truc comme ça.
C'était un puits de science, un puits de
science. Geoffrey Blancano, quoi, voilà, c'est Geoffrey Blancano, quoi. Ou encore Henri Bernet.
Oh,
rappelez-vous, ce jeune Suisse, on en avait parlé dans l'émission.
Henri Bernet, oui, dans un quiz.
Simon, tu suis, j'aime bien ça. Marine, tu es exemptée, tu n'étais pas encore présente dans l'équipe à ce moment-là. Non, mais on avait parlé de ce jeune Suisse, revers une main, bref, Richard est déjà fan.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais.
Qui avait gagné l'Open d'Australie Junior en 2025. Et il sera à Deauville, normalement, s'il ne déclare pas forfait d'ici là, mais voilà, il est dans la start list. Et donc tout ça, ce sera du côté du tennis club de Deauville, dans un cadre magnifique, évidemment, hein, à Deauville, à deux pas de la plage, à partir du 17 mai pour les qualifs et du 19 mai pour le tableau principal. Voilà, vous avez les infos pour aller voir du beau tennis dans la région. C'est cool.
Avant d'aller voir Roland.
Avant d'aller voir Roland, voilà.
Pour se mettre en. on se préchauffe.
Oui, en jambes, oui. On préchauffe à Deauville.
Tu vas en courant à Roland.
Tu fais un petit footing, voilà, puis hop, on se fait un petit aller-retour, puis c'est gagné, quoi. Voilà.
Allez.
Petite sortie de travail et tout, tout le monde est content. Et je prends aussi un petit peu d'avance, mais un autre rendez-vous tennis à ne pas manquer dans la région pour cet été. Là, on prend un peu d'avance.
Oh là là, c'est loin.
Ouais, mais on sort les agendas, parce que franchement, ça vaut le coup. Du 2 au 5 août. À Granville, dans la Manche, aka le meilleur département normand, hein, évidemment, pas besoin de le rappeler. Oui, alors tu peux te dire tout ce que tu veux.
Je suis tellement d'accord.
Il n'y a aucune concurrence, merci Simon. Je veux dire, à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence.
Chance aux effectifs.
Oui, bah, non, mais en fait, juste, faut se rendre à l'évidence, c'est tout. Voilà. Il n'y a pas de contestation à apporter. Dans la Manche, en tout cas, la Coupe Swabo fera son retour. L'an dernier, c'était déjà un anniversaire pour la compétition, avec les 30 ans de la première venue de la compète à Granville. À l'occasion, j'ai sorti un superbe livre que j'ai avec mon studio. Ouais, que j'ai avec mon studio, qui franchement vaut le détour. Si vous avez l'occasion de le commander ou d'aller le chercher directement à Granville, allez-y, parce que franchement, ça se lit, mais d'une traite, c'est magnifique. Et cette année, encore un anniversaire, 20e édition de la compétition à Granville. Et quand même, rappelons-le, cette compétition qui est ni plus ni moins la phase finale du championnat d'Europe féminin U18 par équipe.
Ah oui,
c'est un peu long, mais c'est l'équivalent de la Billie Jean King Cup pour les moins de 18 ans.
De la quoi ?
De la Billie Jean King Cup.
C'est chiant
à dire, c'était mieux fait Cup. Mais maintenant, bon, c'est Billie Jean King Cup. Donc voilà, mais c'est quand même l'équivalent de la BJK Cup pour les moins de 18 ans. Et là, donc, c'est à Granville, hein, je le répète, dans un cadre absolument splendide aussi, sur les cours de la falaise avec le jardin Christian Dior juste à côté, pour ceux qui connaissent. C'est
non, il y a Christian
magnifique.
Dior qui vient.
Ouais.
Wow.
Ouais, il sera arbitre.
Après, il est 32. Hein,
il sera 32.
Il a pas un bourg vert. Mais ouais, il court.
Il se bat sur toutes les balles. Un rendez-vous toujours organisé d'une main de maître par l'équipe d'organisation de la compétition, Catherine Roger, qu'on salue. La France court après la victoire dans la compétition depuis 1997.
Oh, ça fait un petit bout de temps, là.
Il y avait une certaine Amélie Mauresmo dans l'équipe à ce moment-là.
Ah, elle me dit quelque chose.
On peut voir à Granville les futures Amélie Mauresmo.
Mais oui, mais c'est ça qui est sympa à Granville, c'est qu'on voit en fait les futures joueuses qui meublent le top 100 en fait après. Arina Sabalenka est passée à Granville, Rybakina est passée à Granville. Non, mais en vrai, on voit les futures cracks.
C'est énorme.
Du tennis, voilà.
C'est vrai ou pas ?
Ah, mais vraiment,
oui,
c'est vraiment. Tu rigoles, mais tu te moques. C'est terrible cette médisance vis-à-vis du département de la Manche, mais vraiment, c'est absolument.
Mais si, Sabalenka à Granville, c'est hilarant.
Bah écoute, je vais te sortir la page tout de suite dans le bouquin, meublé pendant ce temps-là. Non, je déconne. Voilà, c'est dans le bouquin.
Mais pas au carnaval de Granville.
Mais Ziyadek, elle est pas venue.
Oh mais c'est pas possible. Oh je rends l'antenne, j'en ai marre de cette vision la monolithique du tennis, c'est chiant. Mais... Tout le monde n'est pas Ziatek, merde.
C'est dommage.
Non, Ziatek n'est pas passé à Granville.
Zut de flûte.
Ouais, mais elle aurait peut-être dû passer à Granville, ça lui aurait permis de gagner des matchs cette année.
Oh,
bref.
Allez,
moi aussi.
C'est trop facile.
Non, en tout cas, voilà, la France court après la victoire dans la compétition depuis 97. Est-ce que ce sera pour cette année ? Réponse
oui.
Du 2 au 5 août. Oui, tu l'as vu ?
Oui.
Tu vois l'avenir ?
Oui, bien sûr.
C'est changement de bord. Oui,
oui, oui, oui, oui, oui. On y va. Non, donc réponse du 2 au 5 août à Granville. Donc pour cette nouvelle édition de la Coupe Swabo, compétition que je ne peux que vous recommander. Voilà, on prend les notes, on prend les agendas et on note ça dans son agenda. Du 2 au 5 août.
Faut que le vainqueur il soit beau.
Ah oui,
Coupe Swabo.
Magnifique. Ouais, tu peux remettre le petit tadons, là, le petit bruit de tambour. Voilà, parfait. Ah, ça arrive 30 secondes après en plus, c'est absolument génial.
Le timing est parfait.
C'est absolument génial. On approche tranquillement de la fin de cette émission maintenant.
Oh non.
Mais juste avant, quand même, on va pas se laisser là-dessus. Marine, tu viens de voir l'avenir en disant que la France allait gagner. Il va falloir que tu répètes tes dons de voyance puisque c'est l'heure des pronos. Les pronos de pleine balle qui, on l'espère, vont être un peu meilleurs que la dernière fois. En même temps, c'est pas compliqué en ce qui me concerne, de premier tour, et puis s'en va. Bref, donc tournoi de Rome à présent. Deux tableaux donc à pronostiquer, tableau ATP, tableau WTA. On en est au début du tournoi, Masters 1000 le 12 jours oblige. Évidemment, on commence par le WTA.
Oui.
Qu'en dites-vous, mes amis ?
Avec plaisir.
Je vois déjà éplucher les tableaux de votre œil expert. Qui commence ? Qui veut se lancer dans ces petits pronos ?
Attends, on doit tout pronostiquer. Ou
ah bah là, c'est là
tous
que...
Tous les matchs.
Oh non, mais j'en ai été. Tous les matchs. Emile, ouais. Prends l'oreiller, ça va être long.
Emile, on a pour à peu près une heure. Non, non, on rigole, Emile, on rigole. Non, évidemment, on pronostique la vainqueur, en l'occurrence, de ce tableau WTA. Simon, je te sens bien parti, là. Qu'est-ce que tu vas nous pronostiquer pour ce tableau de Madrid ?
Tu me sens bien parti, mais tu m'as mal senti.
Ah bon ? Ah mince.
Tu as le nez dans ton coude ou quoi ?
J'ai le nez dans mon coude, oui, effectivement. Ça donne un peu de souplesse, d'ailleurs. Mais bon. Une intuition
ouais, je sais pas, moi j'ai envie de dire Rybakina.
Oh, l'intuition, elle est folle.
Oui, alors toi, vas-y, on t'attend parce que ton pronos Viatek qu'on voit venir à 47 km.
Mais n'importe quoi.
Oui, bah d'accord. Ok, on prend les notes, vas-y. Donc Rybakina, on laisse finir Simon d'abord.
Ouais, Rybakina.
Rybakina pour toi ?
Contre qui ?
Contre. Ah, il faut dire la finale.
Ah bah oui.
Rybakina, parce que voilà, elle a pas fait des si bons tournois, mais.
elle a pas été en forme, donc j'en mets.
Non, c'est ça. Mais on sait voilà, qu'elle peut être numéro 2 mondial, qu'elle peut faire des très bons tournois sur terre battue. Pourquoi pas ? En finale, contre. Déjà, il y aura un beau huitième entre Paolini et Andreeva, je pense.
Ah, ça va valoir cher, ça, pour Paolini. Parce qu'on le rappelle, hein, elle défend son titre à Rome.
Il peut y avoir un Andreeva Gauff.
Ouais, t'es en train d'éplucher le tableau, quoi.
Ouais, c'est ça. Non, mais dis Sabalenka, c'est bon.
Non, franchement, je pense pas que ça soit Sabalenka. Franchement, Rybakina Gauff,
la finale à Rome. Ok, belle finale. Et donc, Rybakina gagnante.
Ouais, je verrai ça, ouais.
Ok, Rybakina Gauff avec victoire de la Kazakh. Marine, pourquoi Swiatek ?
Non, mais bon, je vais pas dire IA parce que tout le monde va me tomber dessus.
Bah, tu peux, hein.
Mais j'allais dire.
On tombe dessus.
On tombe dessus, au moins tu sais pourquoi.
Outre IGA, j'allais dire Coco Gauff en vainqueur.
Ah,
ouais.
Ok.
Non, bah, j'espère IGA, bien sûr, mais si à chaque prono je dis IGA, bon, à un moment donné.
Si à chaque prono je l'ai dit et qu'elle ne gagne pas, ça, moi, ça va être embêtant.
Je suis une chaîne noire ou quoi.
On va dire Coco Gauff.
Ok.
Vainqueur.
Vainqueur, ouais.
Vainqueuse.
Coco, ouais, bon, je vais mettre IGA en finale quand même.
Coco, donc Gauff, Swiatek la finale et Gauff vainqueur.
Et je sais pas, j'ai une intuition sur Coco qui gagne.
Un feeling.
Ouais.
T'as un feeling sur Gauff.
J'ai un feeling.
Ok. Donc Rybakina pour Simon, Gauff pour Marine.
Et pour toi, mon zozo.
Je ne sais pas trop, à vrai dire, j'ai un peu de. Je sais pas, est-ce que Sabalenka va reprendre sa marche en avant ? Pareil pour Rybakina, un petit peu, qui a marqué le pas à Madrid. Ou est-ce qu'on aura une autre grosse surprise ?
Est-ce que Paolini va défendre son titre ?
J'ai un peu de mal à croire à Paolini.
Franchement, ça, c'est vraiment pas le truc auquel je crois.
Franchement, il y a un monde, elle perd contre Mertens en plus.
C'est vrai qu'il y a Mertens, ouais, déjà au troisième tour pour elle. Ouais. Donc attention à ce match contre Mertens. Après, ça peut être Andreeva, comme tu l'as dit, Simon. En ce qui me concerne, je ne sais pas. En vrai, franchement, j'ai vraiment du mal à sortir une joueuse.
Non, mais ça marche pas, je sais pas.
Vous savez quoi, on va mettre une grosse cote. Ça me réussit bien, les grosses cotes. Shelton peut en témoigner. Mourova.
Ouais.
Allez, Mourova, j'aime beaucoup Caroline Mourova également. Et j'ai envie d'y croire. Elle est dans le côté de tableau de Rybakina, donc ça peut se sortir. Swiatek, elle va la terrasser sans aucun souci en quart de finale.
Aïe, comme tu dis.
Allez, Mourova pour ma part. Contre Sabalenka. Allez,
ah oui, quand même. Tu te foules, mais pas trop, quoi.
Ouais,
mais la grosse côte est belle quand même.
La côte est sympa. Donc on a trois pronos différents, évidemment, ne les suivez pas. Inutile de le rappeler. Chez les messieurs, qu'est-ce que ça donne pour vous ? Est-ce que Sinner va gagner son 9e Masters 1000 différent ? Est-ce qu'il a complété sa collection ?
Le fait que les deux personnes qui soient forfaits, ce soit Rinderknecht et Vacherot, est-ce qu'ils n'avaient pas un repas de famille ensemble et difficilement.
Ah, c'est possible, ouais.
Je pense qu'il y avait une cousinade ce week-end.
Ouais, difficilement annulé.
Ouais. Ah, ça, effectivement, je pense que tu tiens là une part de vérité, mon Simon.
Non, mais voilà, moi je le dis, je dis les choses qui fâchent.
Ouais, parce que voilà, Vacherot qui dit qu'il est forfait à cause de son left foot. Bon.
On n'y croit pas trop.
Qu'est-ce que c'est foot ? Foot, moi aussi j'ai foot.
Et Rinderknecht, son left calf.
Calf. D'ailleurs, j'ai regardé, c'est un veau. Alors,
ouais, c'est du grand n'importe quoi.
Ouais, voilà.
C'est une fake news.
C'est une fake news.
Pour moi, il y avait
cousinade.
Foot et calf, c'est du pied de veau. Voilà, c'est une cousinade. Pied de veau.
Et donc,
vous
connaissez le menu, quoi. Voilà. C'est pas mal. Non, bah, du coup, en dehors de Rinderknecht et Vacherot qui seront partis partis manger en famille, qui ont pronostic pour ce tournoi de Rome ? Simon ?
Bon. Qui va en finale avec face à Sinner ?
Oui, voilà, c'est la question. Ça. Qui va se faire dépecer en finale face à Yannick Sinner ?
Ou alors, Sinner a une faiblesse et...
Ouais, moi j'avoue, je suis assez surpris. Il ne déclare pas forfait, visiblement, à Rome. Moi, je pensais qu'il allait squeezer le tournoi.
Il enchaîne quand même.
Il enchaîne pas mal, hein, franchement.
Moi, je pense...
Est-ce qu'il n'aurait pas le record de 5 Master 1000 à battre ?
Bah, déjà, là, c'était son 5e Master 1000 consécutif.
Donc là, ce serait le 6e et ce serait le record. Là, il a égalé...
Je crois qu'il me semble qu'il est ou égalé ou battu, je sais pas.
Est-ce qu'il aurait pas égalé Djokovic ?
Ouais, ou Nadal, il y a peut-être un truc avec Nadal aussi, ou Djoko, oui. Mais en tout cas, c'est déjà quasiment un record.
Ouais.
C'était son 5e Masters 1000 consécutif.
6 au moins, là, voilà, il aurait le record, etc. Moi, je suis quand même surpris qu'il y aille à Rome.
Bah,
après,
hein.
C'est chez lui, donc
c'est vrai.
Il y a peut-être ce côté j'y vais, mais en tout cas, s'il y va, c'est sûr que c'est pour gagner. À mon avis, il va pas se dire j'y vais en demi-teinte et on voit jusqu'où je vais, quoi.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Donc tu le mets vainqueur, évidemment. Je pense qu'on va être à tous se rejoindre là-dessus. Mais contre qui, c'est ça la question.
En vrai, moi, je crois en Arthur Fils, etc. Et ça peut être un super match en huitième. C'est en huitième qu'ils pourraient se rencontrer, Arthur Fils.
Oui, c'est malheureusement dès les huitièmes. C'est assez tôt. Ouais.
Si ton Shelton, là, il va loin, ça peut être un beau...
Ton Shelton, là.
Un beau quart de finale, Shelton-Sinner. Mais en vrai, là, ouais, non, la partie de Sinner, elle est quand même pas... Enfin, il n'y a pas de joueur très compliqué où tu te dis peut-être Koboli. Ouais, non.
Ouais, encore...
En demi-finale, Koboli.
Koboli, ce qu'il a fait à Madrid.
C'était pas extra.
C'était pas Flavio.
Fonseca en demi aussi, ça pourrait se faire.
Bon, du coup, alors, est-ce que ça nous sort un prono? Parce que c'est bien.
C'est trop long.
Ça commence à tourner, quoi. Simon, non, toujours pas.
Eh, bah si, si, je l'ai, votre finale.
Vas-y.
Djokovic-Sinner.
Ah, c'est pour ça. C'est pas mal. Ok, Djokovic-Sinner, et donc Sinner vainqueur quand même.
Ouais.
Bon, ça te paraît.
Il bat le record face à celui qui avait, il me semble, le record avant. Enfin, ou du moins.
Qui a dû le faire parce qu'il a tous les records.
Les 5 Master 1000 d'affilée. Face à lui, l'histoire du tennis serait belle.
Franchement, ça serait beau. Donc, victoire d'Yannick Sinner chez lui à Rome. Marine, idem, même prono.
Non.
Prono du mec qui se mouille pas du tout. Je suis resté sur
non,
ça.
Non, pas le même prono.
Non, moi je pense. Enfin, je sais pas. J'ai un petit feeling. Et j'ai l'impression que Sinner, il va se faire têche par Mensik. Ouais, deuxième tour.
Mensik qui est le dernier joueur à avoir battu Sinner d'ailleurs.
Ouais, je sais pas, j'ai un petit. Allez.
C'était en février.
C'était en février.
Ouais, ça commence à faire, ouais.
C'était pas en Master 1000.
Non, c'était à Doha, je crois.
Parce que c'était à Doha.
Que c'est à Doha. On a tapé 500.
En effet. Oui, parce que la finale c'était.
Alcaraz. On s'en rappelle.
Ouais, donc je vais mettre Mensik qui sort de cette partie de tableau.
Oh, alors ça, grosse cote.
Mensik contre. Qui c'est que j'ai dit déjà? Zverev, parce que je trouve que son tableau il est assez ouvert, il n'y aurait qu'un Djokovic, mais pour moi Djokovic il va avoir quand même du mal, il y a quand même Casper dans sa partie de tableau quoi.
Tu penses que Casper il va jusqu'en quart de finale?
Ça va,
au moins il passe pas les HK déjà
mais... Non, mais...
Bah, moi, je pense vraiment qu'il passe pas les HK.
Je pense qu'il passe pas les HK même.
Bon, c'est super.
Après, sur cette terre romaine qui est quand même plus similaire à ce qu'on va connaître
plus
par Roland
battue.
Qui est vraiment vraiment tout souvent on dit c'est vraiment le révélateur pour Roland, peut-être qu'il a un petit avantage quand même, mais ça va être dur contre les HK.
Oui, et ben dur n'est pas impossible, voilà.
Musetti les HK ou Musetti Rude en 8e. Ça peut être beau.
On va finir par le faire en entier ce tableau. Ouais. Donc du coup donc Mensik Zverev et Mensik vainqueur.
Mensik vainqueur.
Ah non, mais je peux pas dire Zverev vainqueur.
C'est ce que j'allais dire, si tu dis pas Mensik, c'est Zverev vainqueur. Attention à ce que tu dis.
Je vais mettre Zverev vainqueur.
Oh bah alors là, clipper ça.
Alors que tout à l'heure.
Non, ça peut être énorme.
J'ai défoncé
après, c'est pas
Zverev,
c'est pas Sinner en face théoriquement dans ton tableau, donc ça peut le faire.
Je pense que Sinner ne va pas aller en finale.
D'accord.
Il est trop fatigué. C'est un humain gagner, normalement. Zverev va gagner Rome. Allez.
Ah mais il est peut-être dopé, Sinner, on sait pas.
Ah bah, il y a déjà eu des petits tests l'année dernière.
Eh ben écoute, on note.
Allez.
Zverev vainqueur à Rome, pourquoi pas. Eh ben moi.
Tu viens de le répéter, ça m'a. Ouais, je sais pas où je suis parti, mais je suis parti.
Faut se l'imaginer quand même, parce que c'est un peu particulier comme concept, mais pourquoi pas. Pourquoi pas, Zverev qui gagne un tournoi, comme quoi tout pourrait arriver. Eh bien moi, j'ai envie de faire très court, très simple, ce sera Sinner Zverev, et ça va être le même massacre qu'à Madrid. Voilà, ça va être exactement pareil. Je pense qu'on part pour un statu quo, tellement les deux sont au-dessus. Je pense, comme tu le dis, que Djoko ne sera peut-être pas encore totalement réglé pour ce tournoi de reprise à Rome, et que ce sera vraiment Roland où il va donner son plein niveau, son plein potentiel. Voilà. Et Sinner complète sa collection de Masters 1000. Quoi. Bon. De façon très simple. Très,
est-ce que Sinner va gagner tous les tournois?
Ça se pose quand même comme question. On verra dans 15 jours. On verra les pronos dans 15 jours, évidemment. Avec quand même Zverev vainqueur annoncé à gauche.
Franchement, j'ai raison.
Ça, c'est risqué, c'est beau.
Je sens.
Et donc, on va quasiment clôturer cette émission, mais juste avant quand même. On joue, ça vous dit de jouer?
Ouais.
Allez, on joue. Le quiz.
On a 8 ans. Qui aura la question?
Non, la réponse.
La réponse 2.
La question.
Mais j'ai pas.
La question?
Non, mais c'est eux. Eux, ils ont la réponse. Enfin, non, ils ont la question et nous, on a la réponse. Ça aurait été plus simple qu'on dise quiz.
Ouais, le quiz.
Quiz.
Le quiz pour clôturer cette émission quiz spéciale Rome, bien sûr. Vous n'êtes pas surpris, hein, évidemment, de ce thème de quiz. Je ne pense surprendre personne. Masters 1000 de Rome, donc. On va commencer avec une petite question assez simple.
En Italie.
Ouais. Oh putain, j'allais le dire.
Eh ben non, c'était pas ma question.
Zut.
Dommage, fallait m'écouter.
En italien.
Eh ben non plus, dommage. C'était toujours pas ça. Qui est le joueur le plus titré de l'histoire du Masters 1000 de Rome?
Nadal.
Bravo. Avec combien de titres?
10.
Bravo, monsieur a révisé avant de venir 10 titres pour Rafa à Rome, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012,
non,
2013, 2018, 2019, 2021. Je ne suis pas Marc Maury, je ne peux pas
2005.
Faire pas. À toi, tu as un potentiel.
Ouais, mais je dirais juste 2005, c'est trop long.
Évidemment, Raphaël Nadal.
Des années après d'autres.
Des années après les autres, des années qui suivent, évidemment. Non, évidemment, Rafa, un plus grand joueur de l'histoire sur terre battue. Et ça, voilà, ça transparaît à Rome. 10 titres pour lui en Italie. La joueuse la plus titrée de l'histoire à Rome.
Ah!
Là, ça fait moins les malins.
Ça ferme son claqué, là. Hein.
Ah, bah là. Alors, qui est la joueuse la plus titrée de l'histoire?
Ika.
Bon, bah, ça devient ridicule. Ça devient ridicule.
J'adore ce running
gag. Tu vas perdre ta passe à plein de mal, je te le dis.
Ah, attention, le siège devient éjectable.
Combien de titres?
5 titres.
Et est-ce qu'elle joue encore?
Ah non.
Est-ce que.
Ah, oui.
Elle, est...
elle a joué dans les années 80?
Oui.
Oh, c'est vieux.
Elle a même joué dans les années 70.
Oh lolo.
Billie Jean King.
Non. C'est une américaine également.
Non, elle n'est pas américaine. Comment elle s'appelle l'autre?
Alors oui, c'est son nom qui veut. Navratilova. Est-ce que tu voulais dire?
Non, je voulais
pas,
dire.
Ça tombe
bien. Je voulais dire Steffi Graf, mais.
Non plus,
mais
c'est
non,
pas elle.
Oh, comment elle s'appelle?
Chris bah, Evert.
Voilà.
C'est Chris Evert.
Chris Evert. 5 titres pour elle en 74, 75, 80, 80 et 82.
Il n'y a personne qui fait mieux que 5?
Eh bien non, il y a plusieurs autres joueuses à 4 titres à Rome, notamment Serena Williams. Je n'ai plus les autres en tête, mais voilà. Il y a plusieurs autres joueuses à 4 et Chris Evert qui reste la joueuse la plus titrée à Rome, donc avec 5 trophées.
C'est un vieux tournoi?
Eh bien oui, parce qu'on va y venir. C'est une question qui arrive après, mais vous savez quoi, je vous la donne. On est là entre amis, on cause comme si on
était... Au dépoté. Hein.
Voilà, franchement, on fait ça, on est entre nous. Quoi. Le tournoi de Rome qui a été créé en 1930.
Ah oui, ça date.
Extrêmement vieux tournoi, donc à Rome. On va y revenir un petit peu après. J'ai une stat aussi à propos de Chris Evert. En 76, justement, elle ne gagne pas le tournoi. Elle s'incline contre sa compatriote Tracy Austin, ce qui met fin à une série de victoires consécutives sur terre battue.
De Chris Evert?
Chris Evert, combien de victoires consécutives sur terre battue pour l'américaine?
72.
On va faire un juste prix. 72.
Allez, il y a quoi? C'est tout. En fait, c'est des tournois.
Victoires consécutives sur terre battue.
Mais ça peut être sur plusieurs années, on est d'accord.
Victoires consécutives sur terre
battue. Ça peut être sur plusieurs années, bien vu ça.
Oui.
Tu as dit 72.
Moi, je dirais.
Après, c'était un peu une blague, 72, mais vas-y.
Tu peux redire
garde.
Un chiffre.
Non, vas-y, je le garde.
72.
40.
C'est Marine qui est plus proche.
Mais non.
125 victoires consécutives.
Ah oui, mais on l'a sous-côté de
fou. Sur terre battue.
C'est incroyable.
Oh là là. 100 défaites sur terre. Avec une stat d'ailleurs absolument dingue. Sur ses 6 ans sans défaite, elle ne perd que 8-7.
Waouh.
Sur ses 6 ans. Sur ses 125 victoires consécutives. Chris Evert, qui était vraiment la référence sur terre à l'époque, cette stat l'illustre bien.
Finesse.
Et donc, ouais, 125 victoires consécutives pour elle à l'époque. Une série absolument impressionnante.
Ah ouais,
une série que va peut-être égaler Yannick Sinner, qui est sur 23 victoires consécutives, toutes surfaces confondues. Mais bon, quand même, il va falloir se lever tôt hein, pour
mais
égaler
125,
ça.
Mais 125, c'est
aberrant. Même Nadal, je pense, n'a
sachant
pas.
Sachant qu'il faut 7 matchs en fait, pour gagner un tournoi, globalement.
Globalement, oui. Entre, ça dépend les formats, mais oui, globalement.
Sur 6 ans, t'as dit?
Sur 6 ans, oui. 6 ans de suite sans perdre.
Est-ce qu'elle joue en double?
Ah, j'ai pas la stat. Mais non, il me semble que c'est en simple. Hein, mais
je pense aussi, ouais.
Quand même, c'est impressionnant. 125 victoires de suite sur Terre. On l'a dit, donc Sinner va peut-être gagner le tournoi cette année. On l'a dit peut-être dans notre prono. Les derniers vainqueurs italiens en simple de ce tournoi de Rome, ça remonte à quand pour les messieurs? On va faire.
L'année dernière.
Eh ben non.
Bah, si. Dernier vainqueur ensemble, c'était Sinner l'année dernière.
C'était Sinner l'année dernière, j'ai peut-être foiré mon quiz.
C'est oh
peut-être,
non,
on est peut-être, on est peut-être sur une foire dans live.
C'était pas un double. Attends, non mais ça se trouve.
Alors si tu me fais vérifier et que c'est pas ça, toi je te jure, tu perds ta place ce soir.
Il y avait pas un doublé italien.
On a dit en simple.
Sinner. Bah oui, non mais c'est ça, Paolini et Sinner.
J'ai dit en voilà. Simple.
Bah. Oui,
ah ouais,
Paolini, elle a gagné ensemble et Sinner.
C'est Alcaraz qui gagne l'année dernière, non mais c'est pas possible.
Et contre qui en finale?
Contre Sinner, certes.
Oui, c'est ça, c'était ça le doublé italien.
C'est pas possible, hein, vraiment. Bon, Marie, il va falloir, se réveiller.
C'est les partiels, ils
attention.
M'ont avalé.
J'espère que t'as mieux réussi tes partiels que cette émission.
Ouais, parce que sinon, attention, l'année prochaine, tu es toujours à quand
horrible l'ambiance. L'ambiance
franchement,
de l'émission.
L'ambiance est absolument détestable. Bon, bref, du coup, ma stat est bonne.
Oups, my bad.
Donc, le dernier vainqueur italien en simple, Roland Garros. Darderi, évidemment. Non, c'est un peu plus vieux que ça aussi. Quelle année? Si vous donnez une année, en vrai, on va
oui,
faire au plus proche.
Il faut connaître des joueurs italiens aussi.
Bah, franchement, vous êtes des experts du tennis ou pas?
Je pense que c'est très long.
Je vous confirme que c'est
genre années 50.
Un peu plus récent quand même.
74.
Juste à côté, 76.
Oh.
76, on va peut-être fêter les 50 ans cette année de la dernière victoire italienne à Rome.
Antonio Spaghetti.
Ouf. Bon, alors ça, c'est... Attention. Ça, attention, c'est légèrement cliché, mais on va faire comme si on avait rien entendu. Non, c'est Adriano Panatta.
Tu veux la perdre, tu veux plus venir.
Ouais, vraiment, t'as rien à perdre.
Non, mais c'est... j'ai plus de filtre là.
Ah oui, bah, on a vu ça, ouais, effectivement, là, c'est effrayant. Bref, on va faire comme si de rien n'était. Transition. Adriano Panatta, vainqueur en 76.
J'ai cru que t'avais dit Antonio, j'ai eu Adriano, non. Ok.
Vainqueur en 76.
Antonio Panatta.
Il avait d'ailleurs aussi gagné Roland Garros cette année-là.
Ah, pas mal.
Il avait fait le doublé. Et chez les filles, donc avant Jasmine Paolini l'année dernière, pareil, ça remontait aussi, c'était Raffaella Reggi en 85. Donc avant Paolini l'année dernière, 40 ans également, de disette italienne. D'autres petites stats, d'autres petites questions finalement dans ce quiz. Le tournoi ne s'est pas toujours joué à Rome. Le sachiez-vous. Et oui. Dans quelle ville s'est-il joué autrement?
Mais il s'appelait Rome aussi ou pas?
C'est
le
tournoi italien. Enfin, c'était un master. Ah. C'était avant l'ère Open en fait. Donc c'est, ça date là aussi, hein, je vous donne un gros indice. C'était avant 68 du coup. Mais il s'est joué dans deux autres villes italiennes. Qu'est-ce que vous pourriez dire comme autre ville italienne qui pourrait accueillir ce tournoi?
Une autre ville italienne.
Venise.
Non.
Ah, on va juste dire des villes comme ça. Qui connaît mieux l'Italie?
Oh,
Milan.
Milan, ouais, voilà. Milan, exactement. Entre 1930 et 1934. Les quatre premières années.
Florence.
Non. J'aurais pu, Florence. C'est magnifique. Ça aurait été magnifique. Ça aurait
oui.
Été bon. Non, c'est Turin également.
Ah, oui,
Turin.
Ah, oui.
Milan, Turin.
Ça va, c'est, voilà, c'est des grandes villes.
On est sur du classique.
On est sur du classique, globalement. Turin, c'était en 1961. Et j'ai une dernière petite question.
Fais-nous rêver, dis-nous.
Autour d'un match précis. Donc,
vas-y.
La finale de double 1976. On y a vu cette année. Donc, une finale qui se joue au meilleur des 5-7 à l'époque. 2-7 partout, d'ailleurs. Hein, entre la paire Newcombe Masters et la paire Ramirez Gottfried. Mais, coup de théâtre, la nuit tombe sur Rome. Impossible de finir le match dans ces conditions.
Ils n'avaient pas de lampe.
Ils n'avaient pas de lampadaire apparemment, je ne sais pas comment.
Après,
ça
t'as dit quoi? 76.
76. Hein, donc l'éclairage, je ne sais pas. Bah, peut-être
c'est
que c'était. Bah, écoute, en tout cas, la nuit, hein, voilà, interrompt le match. Qu'est-ce qui va se passer selon vous après? Qu'est-ce qui pourrait bien se passer comme truc un peu rocambolesque à propos du cinquième set?
Ah,
le propos de cinquième set, moi franchement, c'est assez dingue.
Est-ce qu'il n'y en a pas un des joueurs qui meurt?
Non. Mais il y a une idée de temps. Il y a un truc en lien avec du temps.
Genre après, il a plu. Donc ils n'ont pas pu jouer le lendemain.
Ils n'ont pas pu jouer le lendemain, je vous le confirme.
Ah, c'est pas mal. Ils l'ont
parce
joué
une tribune
semaine
s'est
après.
Écroulée.
Ils l'ont joué une semaine après. Ils l'ont joué 108 jours plus tard.
Mais non, c'est pas possible.
Le cinquième set de cette finale sera joué 108 jours plus tard, le 15 septembre 76, alors que le tournoi se joue en mai. Hein.
Mais pourquoi?
Et un peu de contexte. Alors j'ai cherché, c'est un peu compliqué à trouver. Mais apparemment, il semblerait que face au calendrier déjà extrêmement complet des joueurs dans cette année 76, les organisateurs et les joueurs n'ont pas trouvé d'autres moments en commun pour réunir les quatre joueurs. Et donc ils l'ont joué à la première opportunité possible, c'est-à-dire le 15 septembre de l'année 76. Et ils l'ont joué à Houston, aux États-Unis. Voilà.
Sur la même surface ou pas?
Je crois que c'était quand même sur terre battue.
T'imagines? Ah. Oh, c'était un match de baby-foot en fait, ils sont réglés ça comme
non,
ça.
Non, mais c'est assez incroyable. Et d'ailleurs, il y a eu un des deux joueurs qui avait déclaré. Ce qui est marrant, c'est que du coup, on a commencé le tournoi à Rome, on le finit à Houston. Maintenant, on a gagné, il faut qu'on aille rechercher le tournoi à Rome. Le trophée, pardon.
Trophée. Oh,
le trophée à Rome. Évidemment, non, ils ont attendu l'année d'après pour récupérer leur trophée.
Oh, sinon, empreinte carbone.
Empreinte carbone, voilà, le bilan carbone, c'était pas fou. Quoi.
Oh, voilà, non. Xador a gueulé.
Ah, franchement, c'est pas bien. Mais voilà, donc une petite anecdote rigolote.
C'est incroyable.
C'est assez fou, franchement, 108 jours après.
C'est abusé.
Donc une finale du tournoi de Rome, c'est déjà joué aux États-Unis.
Voilà, on peut le dire.
Ça, tu le sors en soirée, bah dis
voilà.
Tu
ça, fais... c'est pour frimer en soirée.
Ah bon ouais,
voilà,
bah, n'hésite ça, tu pas. Te régales. Hein.
C'est aussi une émission culture, pleine belle un peu. Voilà, voilà ce petit quiz sur le tournoi de Rome.
Merci Enzo.
Bah, avec plaisir. Et c'est malheureusement là, pour le coup, ça y est, on peut le dire. C'est la fin de cette émission. Allez, sortez les mouchoirs, Steve. On pleure tous, évidemment. On se donne rendez-vous dans 15 jours. Emile approuve, évidemment. Il est tout aussi triste que
content,
nous de nous
hein.
quitter là. Non, non, il fait genre, mais je sais qu'il est triste au fond de lui. Dans 15 jours, bah, on débriefera Rome, bien sûr.
Évidemment.
Et surtout, on sera en preview de Roland Garros. Et ça, c'est bien.
Les
ça,
pipites.
Franchement, c'est cool. Ça fait plaisir. Donc d'ici là, bah, passez une bonne soirée. Passez une bonne semaine également.
Régalez-vous
avec ce tournoi de Rome.
À la télé, dans les voilà. cours de vos villes
dehors,
respectives.
Dehors.
Ouais.
Profitez du beau
Profitez-en,
temps.
Profitez-en, quoi. Et vive le tennis, en fait.
Bon, vive la balle jaune.
C'est tout ce qu'on peut dire. Voilà.
Allez, bisous.
Bonne soirée.
Bisous.
Et donc, à dans 15 jours, salut.